On commence. Bien, merci d'être venu et d'avoir répondu à notre appel. Donc, comme d'habitude, je suppose qu'il y a dans la salle des gens qui sont eux-mêmes affectés par la maladie, des proches, des professionnels du soin, des professionnels du social et des apprentis dans ces deux disciplines-là. Pour notre Xème séance de la semaine d'info sur la santé mentale à Poitiers, ce soir on a des intervenants qui viennent sur leur temps personnel parce que leur temps professionnel est trop pris, donc ils viennent sur leur temps personnel bénévolement comme nous, nous accompagner. Donc on leur est très reconnaissant de cette démarche. On a d'autres partenaires, donc l'espace Mendès France, bien sûr, avec son personnel qui fait aussi des nocturnes pour nous. Donc merci à eux. Et puis merci aussi Auditriche qui, cette année, se joint à nous pour que l'ensemble de sa programmation de la semaine ait trait aux problèmes qui nous intéressent. Donc je ne sais pas s'il reste des petits programmes d'hier soir, mais on en avait sur les tables. En tout cas, il y a l'affiche sur la porte à la sortie et sur le site internet du Dietrich, le-dietrich.fr, vous avez l'ensemble de la programmation de la semaine. On a aussi un partenariat avec Argos, qui est une association voisine spécialisée pour les troubles bipolaires et qui anime la soirée de demain sur la question des addictions. Donc on se fait une concurrence amicale, nous, au Dietrich, et eux ici. Donc la vie continue, chacun de son côté et en complémentarité. Donc je ne vais pas être trop long, je vous laisse la parole et on aura bien sûr plein de place pour toutes les questions que vous souhaitez poser et notamment celles que vous osez jamais poser d'habitude dans le cadre habituel puisque tout ça est un peu intimidant, un peu impressionnant et ce n'est pas toujours facile de poser les questions qu'on a envie de poser, mais justement ce lieu est fait pour ça. Est-ce que j'ai oublié des choses que je devais dire, monsieur le vice-président? Non, je suis bien. Bon, à vous. Donc, vous vous présenterez vous-même?
Voilà, donc je dis bonsoir à toutes les personnes qui ont bien voulu venir assister à cette soirée. Moi-même, je vais débuter donc la soirée. Je vais ensuite être suivie par l'équipe d'Espoir 86, ici présente, Monsieur Gentil et Madame Chou. Alors, moi, je suis le docteur Lévi Chavagna, psychiatre au centre hospitalier Henri Laborie. Et je m'occupe plus particulièrement d'un centre médico-psychologique qui dépend du pôle 3, hein, qui se trouve être maintenant rue Gay-Lussac, puisque tous les centres médico-psychologiques d'Henri Laborie ont déménagé en décembre sur un site nouveau hein, qui se trouve être à Beaulieu. Alors la 20e semaine, bon, au niveau national, donc pour Poitiers, on n'en est peut-être pas encore... enfin, en tout cas, c'est les semaines de l'information sur la santé mentale ont commencé il y a déjà quelques années. Et cette année, le thème hein, était autour quels soins et quels accompagnements au pluriel autour des maladies psychiques. Alors, non, ça... Alors, l'année dernière, le thème était maladie psychique et isolement, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même important d'en dire au moins un mot, dans la mesure où l'insertion commence par l'intégration dans le social, hein, avoir un logement, pouvoir subvenir à sa vie quotidienne, pouvoir participer à des groupes comme le GEM, être éventuellement aidé par des services d'aide à la vie sociale, avoir éventuellement une protection juridique. Donc tout ceci avait été abordé l'an dernier et je pense que le thème de cette année est une continuité tout à fait intéressante hein, dans ce type-là. Hein. Alors le sujet de ce soir est un sujet donc, qui tourne autour de l'insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques. Hein. Comment peut-on les accompagner? D'abord, doit-on les accompagner? La réponse est oui. Et comment? Donc, on va essayer de donner quelques pistes de réponse. Et, bon, et j'espère que vous pourrez poser des questions, bien évidemment. Alors, en ce qui me concerne, je vais donner des grandes lignes autour de des troubles psychiques, hein, ou des maladies psychiques, qui, je le rappelle, concernent quand même plus de 20% de la population, hein, aussi bien des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Hein. Donc, on peut dire que les troubles psychiques nous concernent tous. Hein, et ça, je pense que c'est important, hein, de ne pas forcément penser que c'est l'affaire des autres. Hein. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Il y a encore aujourd'hui, trop souvent, hein, des mécanismes de stigmatisation, parfois d'ignorance, hein, souvent. Et je pense, moi, que plus on est informé, aussi bien les personnes qui souffrent elles-mêmes, de quoi elles souffrent, que les familles, hein, que également les proches, et bien évidemment le social. Excusez-moi. Mieux on pourra donc aider les personnes souffrant de troubles psychiques sans pour autant les montrer du doigt. Alors, il y a quand même beaucoup d'idées fausses, hein, qui tournent autour des troubles psychiques. Et en particulier, il y a eu une étude qui a été faite sur la santé mentale en population générale, où d'ailleurs l'hôpital Henri Laborie avait participé. Et on voit qu'encore aujourd'hui, hein, il y a des choses qui sont crues par les gens, hein, en particulier. Quand on demande aux gens s'ils connaissent des lieux où est-ce qu'on soigne, enfin on s'occupe des problèmes psychiques, bon, ils vont dire l'hôpital psychiatrique, hein, donc à presque à 80%, et le terme fou revient de manière surprenante, mais de manière certaine, hein, dans cette étude qui a drainé en France plusieurs dizaines de milliers de personnes. Or, il faut quand même le dire, cette idée est fausse, hein, puisque la majorité des personnes sont suivies en extra-hospitalier, c'est-à-dire hors de l'hôpital psychiatrique. Alors, il faut savoir aussi certaines choses. C'est que longtemps, hein, la maladie psychique, les maladies mentales étaient cantonnées, on va dire, à une prise en charge très, très médicale, certainement trop asilaire, hein. Et aujourd'hui, il faut essayer de se défaire de cette image, hein. Je répète que les problèmes psychiques ne sont pas l'affaire que des médecins, que des psychiatres, hein. Les politiques sont bien sûr intéressées à tout cela. Il y a quand même maintenant des politiques d'insertion et de lien avec le monde du travail, hein. L'hôpital lui-même s'ouvre, hein, petit à petit, les lits se ferment, hein. Et ce qui parfois, bien sûr, pose problème, hein, dans la mesure où on a l'impression que les personnes ne sont plus accueillies à l'hôpital. Hein. Alors oui, il y a moins de moyens pour l'intra-hospitalier, mais en contrepartie, on a développé les hôpitaux de jour, les centres médico-psychologiques, les services aussi d'accompagnement sur Henri Laborie. Il y a des services comme le service déplacement familiaux, hein, des hébergements médicaux, des hébergements sociaux. Il y a aussi maintenant un service qui permet d'aider les personnes en précarité. Hein. Et donc, je le rappelle, presque 2/3 des personnes sont suivies donc hors de l'hôpital. Alors, par contre, un fait est certain, et ça sera bien détaillé ce soir, hein, la maladie peut entraîner le handicap. Hein. Mais le handicap n'est pas égal à la maladie. Hein, et ça, c'est vraiment assez important. Hein. Le handicap est une conséquence, hein, de certaines difficultés que la personne a du fait de sa maladie. Hein. Et il faut également insister qu'actuellement, on a quand même un certain nombre de progrès dans les médicaments en particulier. Et c'est vrai que les médicaments, parfois, sont souvent, entre guillemets, critiqués. J'ai un traitement trop lourd, comment voulez-vous que je travaille? Je m'endors, ça m'assomme. Donc, toutes choses qui sont bien sûr à prendre en compte. Hein. Mais aujourd'hui, on devrait quand même pouvoir aider les personnes sans pour autant leur donner des effets secondaires trop importants. Et donc, la vie sociale n'est pas une vie qui concerne uniquement les personnes non handicapées psychiques. Hein, elle doit concerner à part entière également ces personnes. Alors, quelques mots rapides pour faire une différence quand même de base, mais qui est essentielle, hein, sur le handicap mental et le handicap psychique. Hein. Alors, le handicap mental, c'est souvent en lien avec une déficience qui est acquise extrêmement tôt, souvent dès la petite enfance, hein, qui aboutit donc à des incapacités, mais qui sont très précoces. Le handicap psychique, en général, arrive plus tard, hein, en particulier pour présenter une maladie qu'on va voir rapidement après. Tout ce qui tourne autour de la schizophrénie, par exemple, apparaît plutôt au niveau du jeune adulte. Hein. Le déficit intellectuel n'est pas forcément majeur. Hein. Il y a des soins psychiatriques, hein, et bien sûr, les manifestations varient dans le temps. C'est ce qui rend parfois un peu compliqué, d'ailleurs, l'accompagnement, hein, puisqu'une personne peut être dans un accompagnement en vue d'une insertion professionnelle, être bien pendant quelques mois, et puis après aller très mal, alors qu'on est en train justement de faire aboutir le projet. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de fixé. Hein. Alors la question de la reconnaissance du handicap psychique par les institutions, hein, nous est posée. Bon, la loi de février 2005 et son application pour l'égalité des droits et des chances est une loi tout à fait essentielle. Hein, et ça, je pense qu'il fallait au moins la nommer, mais ça sera certainement repris par mes collègues de droite. Alors, les progrès médicaux, bon, ça, je vais en revenir rapidement, mais bon, les médicaments, en particulier dans les maladies schizophréniques, mais également les troubles bipolaires, les dépressions, sont quand même plus à même maintenant de permettre de moins ralentir les gens, hein, sur le plan de leurs troubles de concentration. Donc, aujourd'hui, réellement, hein, on peut atteindre des... Pour certaines personnes, hein, alors je ne dis pas pour toutes les personnes, hein, il faut bien dire quand même que ce n'est pas facile de s'intégrer déjà quand on n'a pas forcément de troubles psychiques. Hein, on voit bien que le chômage atteint beaucoup d'autres populations. Hein, mais pour autant, quand on n'est quand même pas invalidé par un traitement qui vous paraît difficile à vivre par ses effets secondaires, on est quand même beaucoup mieux. Donc les progrès de la médecine sont importants. Alors autrement, il y a également des gens que je pense que vous êtes à même d'aider. C'est des gens qui, à l'âge adulte, développent un problème mental, soit de par un accident, de par une maladie, qui peuvent avoir donc des séquelles, hein, cérébrales en particulier, hein, et bon, qui nécessitent à ce moment-là plutôt une forme de reconversion, hein, au niveau du travail. Alors, sans vous faire bien sûr un cours de psychiatrie sur les maladies mentales, parce qu'on n'est pas là pour ça, quels sont les problèmes, les troubles psychiques, hein, qui ensuite peuvent poser problème dans le cadre du monde du travail. Alors, au-delà du diagnostic, c'est-à-dire tout trouble confondu, hein, il faut savoir quand même que les demandes d'aide, c'est-à-dire même d'aide d'accompagnement, hein, et de soins ne vont pas forcément venir immédiatement par la personne elle-même. Et ça, je pense que c'est important de le dire, hein, puisque trop longtemps, et ça, je me pose en tant que psychiatre, hein, on a entendu dire, et on a nous-mêmes dit, hein, la personne doit elle-même venir nous voir, la demande doit venir de la personne elle-même. Or, il faut bien être quand même conscient que les troubles psychiques empêchent souvent la personne d'être consciente de manière certaine de ces troubles, hein, de ces incapacités parfois. Les personnes qui l'entourent en sont plus sensibles. Et si c'est ces personnes qui nous saisissent, hein, aussi bien le monde de la psychiatrie que les services d'accompagnement, il ne faut pas leur fermer la porte. Ça peut être aussi des personnes qui vont aller voir au niveau de l'UNAFAM ou pour avoir des renseignements. Hein. Donc, il faut donner des réponses. Hein. Alors, cette personne donc, a ce qu'on a appelé donc, les conséquences de son handicap, c'est-à-dire des incapacités, hein, qui vont déjà restreindre sa participation à la vie sociale. Pour certains même, bon, qui n'en ont pratiquement pas, hein, et leur activité, dont elles vont donc être particulièrement limité, d'où l'importance hein, aujourd'hui des structures comme les GEM, par exemple, hein, groupements d'aide mutuelle, qui sont vraiment essentiels. Alors, autre point important qui concerne toutes les problématiques psychiques en général et leur interférence au niveau de l'insertion, c'est ce qu'on appelle les problèmes de jugement. Bon. Parfois, les demandes qui émanent de la personne vont paraître un petit peu décalées hein, par rapport à ce que les aidants, les accompagnants, les services de soins vont penser que cette personne pourrait faire. Hein. Une personne va dire, oui, moi, je veux faire des études de sociologie, par exemple. Bon, ils vont aller rencontrer Monsieur Gentil pour lui poser cette question. Et puis, visiblement, bon, ça ne paraît pas tout à fait réaliste. Hein. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut contredire, critiquer et contrer la personne à 100%. Hein. Il faut faire connaissance avec elle et petit à petit essayer de voir comment ces demandes peuvent apparaître un peu plus réalistes. Et il ne faut pas couper tous les rêves immédiatement dès qu'ils apparaissent hein, dans la bouche d'une personne. Parce qu'il faut continuer à avoir des rêves, c'est important. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement en dehors de la réalité. Donc ça, c'est des points quand même qui sont assez constants. D'où l'importance hein, d'évaluer ces fameuses incapacités. Hein. Donc là, on en vient plutôt au rôle des services d'accompagnement, bon, bien évidemment aussi des services de psychiatrie. Hein. J'insiste en particulier sur le rôle des infirmiers hein, en psychiatrie, qui sont des collaborateurs essentiels au niveau des soins, en particulier dans les services donc, alternatifs à l'hospitalisation, bien sûr aussi en hospitalisation, mais ça ne sera pas trop le cas d'en parler ce soir. Et très souvent, là où une personne refuse de voir un médecin psychiatre, parce que ça fait encore peur, hein, le mot psychiatre reste quand même encore un peu obscur et parfois impressionne un certain nombre de personnes. Le fait d'être en contact avec un infirmier peut faciliter beaucoup hein, la prise en charge et je dirais, permettre à un lien déjà de se créer. Et comme nous travaillons toujours en équipe, enfin du moins pour ce qui me concerne, je ne vais parler que de l'hôpital, et on est toujours, donc nous, en lien avec des infirmiers qui ne travaillent pas seuls. Hein. Et donc, ça reste vraiment essentiel. Alors, les aidants et la famille, hein, je pense qu'il faut remettre également à sa place les parents, hein, les proches, qui trop souvent, et ça aussi je dois le dire puisque c'est une critique de la psychiatrie que je vais faire, ont été amenés à stigmatiser la famille comme, entre guillemets, pathogène. Hein. C'est-à-dire, c'est une famille qui a rendu malade cette personne. Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas d'accord, et bon, la majorité, maintenant, des psychiatres ne sont pas dans cette mouvance-là. Et bien au contraire, hein, nous désirons, bah, tant que la famille n'est pas, entre guillemets, maltraitante dans le sens réel du terme, hein, je parle maltraitance physique, enfin, donc ça, c'est plus des domaines qui sont un petit peu de la psychiatrie de l'enfant, mais bon, qui peuvent aussi continuer, malheureusement, aussi parfois chez les adultes. La famille, d'une manière ou d'une autre, tout en respectant quand même le secret professionnel, hein, tout en respectant l'intimité de ce que les personnes vont nous dire, il paraît essentiel de ne pas exclure les familles dans la mesure où ce sont quand même elles qui sont en contact direct et permanent avec la personne et qui connaissent, hein, qui connaissent bien. Et donc, je pense aussi que vous, Monsieur Gentil, vous ne refusez pas non plus le contact avec les familles, hein. Mais ici, il faut le faire en respectant le patient hein, et assez souvent en l'informant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, faire les choses derrière le dos de la personne, hein, mais on peut tout autant quand même collaborer avec la famille sans pour autant trahir le patient. Hein. Mais ça, c'est des données qui ne sont pas forcément toujours évidentes à expliquer. Alors, beaucoup de chercheurs hein, montrent actuellement que des choses qui peuvent apparaître d'une simplicité entre guillemets simpliste pour tout un chacun peuvent être extrêmement difficiles à accomplir par une personne qui a un trouble psychique hein. Et ça, ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas hein. Donc là, il faut vraiment, et ça c'est vraiment le rôle de l'évaluation des cas d'incapacité, hein, pouvoir les percevoir. Hein, et maintenant, on essaye beaucoup maintenant de travailler sur des entraînements, hein, ce qu'on appelle la psychoéducation, hein, et la remédiation cognitive, enfin l'apprentissage à travers des techniques assez simples, de groupe, par exemple pour les patients schizophrènes, hein, qu'on fait au niveau des hôpitaux de jour ou des CMP. Hein, c'est la réhabilitation aux habiletés sociales, hein, donc bon, ben, des choses qui paraissent très simples pour nous, hein, bon, faire des courses, remplir, faire un courrier, enfin des choses bon, qui peuvent apparaître peu complexes, hein, nécessite quand même un entraînement. Alors voilà, voilà quelques actions qui sont difficiles à faire, hein, mais qui, bon, donc là je vais parler d'une personne, on va dire, qui a un handicap psychique, bon, quand même pas forcément très profond, mais quand même bon, un handicap, bon, pouvoir faire des achats facilement, se préparer un repas équilibré, ne pas ouvrir une boîte de conserve tous les jours de la semaine. Pouvoir gérer ses dépenses, faire un peu de ménage, remplir son dossier, faire une sortie. Bon, toutes ces choses-là sont facilitées aujourd'hui par les structures, hein, et les aidants qui ont une place importante qui n'existaient pas forcément avant. Alors, selon les périodes de la vie, on n'a pas forcément les mêmes capacités, les mêmes incapacités, hein. Donc l'accompagnement, c'est aussi un projet, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un cheminement, hein, c'est pas fixé dans le temps, hein, c'est pas on vous accompagne aujourd'hui de la même façon toute l'année, hein, ça va varier. Hein. Et bon, il y a, je dirais que toutes les cultures qui accompagnent les personnes sont diverses, hein, il y a le social, le monde de l'emploi, le sanitaire, la MDPH, anciennement Cotorep, la psy, l'UDAF, l'UNAFAM, les familles, bon voilà. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément toujours la même langue, ça, c'est quelque chose qui se sait, mais bon, le fait de collaborer nous amène à créer un tissu de culture, je dirais, commune, hein, qui est à construire, hein, et qui va dépendre un peu des lieux où on vit, où on travaille, et un langage un peu plus partagé, hein. Et tout ça, bien sûr, en écoutant, hein, la personne, c'est-à-dire que la parole de l'autre, même si elle est contraire à ce que nous, on aimerait entendre, doit toujours être entendue. Donc là, c'est vrai que bon, cette culture commune et ce langage partagé, ça ne coule pas de source, c'est un travail. Hein, c'est un travail, c'est une collaboration. Hein, et ça se construit, ça reste fragile. Hein, donc... Alors, comment peut-on travailler avec une pathologie psychique, hein ? Donc là, on va avancer dans le diaporama. Alors déjà, travailler. Bon, ben, travailler, d'accord. Hein, travailler, c'est la santé, etc. Bon, c'est bien. Mais pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Hein ? Alors ça, même tout un chacun, je dirais qu'en dehors d'un trouble, peut s'être à un moment de sa vie se poser ces questions un peu plus profondes. Alors ça aussi, c'est variable, hein, selon les troubles, selon les soins. Ça va dépendre aussi de l'atteinte cognitive, hein, c'est-à-dire des capacités d'intégration des informations, de la mémoire. Hein. Alors la motivation peut être personnelle, mais peut être aussi familiale. Hein. Il y a des familles où on fait tel métier, d'autres familles où on ne les fait pas. Dans ma famille, c'est pas possible que je fasse ça. Vous n'y pensez pas, travailler aux espaces verts, mais ça ne va pas du tout. Mon père, il veut que je sois maçon. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à entendre. Hein. Et ça dépend aussi d'un point fondamental, c'est-à-dire l'intégration de la personne par rapport à ses troubles. Hein. Il ne faut pas penser, hein, que c'est facile d'accepter d'avoir un trouble psychique. C'est difficile. Hein, c'est difficile. Ça nécessite des capacités importantes de résilience, hein, des capacités d'accepter d'être différent, hein, sans pour autant signifier un échec sur tout, hein, mais bon, c'est vraiment important. Et pour ça, hein, le travail peut avoir une fonction essentielle, qui est celle d'être intégré, hein, d'être intégré dans le monde. Bon. Et après, bon, les fameuses capacités d'insight, hein, c'est-à-dire comment intégrer ce trouble et comment ensuite pouvoir accepter et avancer. Alors, il y a aussi un problème essentiel, c'est celui de la précarité, hein, de l'isolement. Il ne faut pas oublier que la précarité concerne énormément de personnes en France, hein, mais en particulier beaucoup de personnes qui sont handicapées, hein, et qui sont, je dirais, encore plus souvent précarisées. Hein. Alors, le service, hein, de psychiatrie de précarité mobile qui a été créé l'année dernière au CHHL, permet d'avoir des assistantes sociales, hein, qui sont dans les différentes missions, des psychologues, excusez-moi, qui sont dans les missions locales auprès des jeunes qui recherchent des emplois, et elles peuvent repérer les jeunes qui ont des troubles psy, hein, de manière à pouvoir aider le soin. Parce que des fois, on ne s'intègre pas dans un projet, hein, non pas parce qu'on ne veut pas, non pas parce qu'on est bête, hein, mais parce qu'on a un problème, on a une souffrance qui n'est pas prise en compte. Alors, une autre équation importante, hein, l'insertion professionnelle n'est pas forcément une fin en soi. Hein, elle doit s'intégrer dans une insertion sociale, hein, et souvent c'est une étape qui n'est pas évidente, hein, puisque... parfois, la personne qui a des troubles psy peut être relativement encore dépendante de sa famille, hein, et il est préférable de pouvoir quand même déjà entamer une certaine autonomie, on va dire, de logement, enfin de d'intégration sociale, avant de se jeter à corps perdu dans le travail. Hein. Et ça, bon, même si c'est des cheminements qui peuvent aller de pair, il est parfois bien qu'il y en ait un qui soit un peu plus... arrive un peu plus tôt que l'autre. Hein. Alors ça, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des mesures d'accompagnement, hein, donc, au niveau de, justement du logement, hein, à travers les structures qui sont des structures de l'UDAF, les SAVS, les SAMSA, hein, qui sont les familles gouvernantes, hein, donc des mesures d'accompagnement et de vie de personnes aidées par d'autres, hein, soit en vie un peu communautaire, soit avec des personnes qui sont tout le temps là, soit des gouvernantes, soit pour la maison relais, bon, aussi des personnes qui travaillent mais qui ne sont pas toujours présentes, des contrats qui sont signés entre les personnes et les services, donc... et les services de psychiatrie et l'UDAF. Donc là, je pense que, bon, si vous voulez en savoir plus, mon voisin pourra vous donner plus d'informations. Mais en tout cas, bon, on peut, hein, c'est pas parce qu'on a un trouble psychique qu'on a qu'une allocation d'handicap et qu'on n'a jamais vécu seul ou qu'on n'a jamais vécu hors de chez sa famille, ça veut pas dire qu'on ne pourra jamais le faire. Hein. Ça, c'est quand même important. Et je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je ne le pensais pas. Il n'y avait pas les structures correspondantes. Alors, les conventions, bon, ben, elles sont essentielles, mais ça, je pense aussi que M. Gentil en parlera. Bon, tout est fait par des conventions. Hein. L'hôpital, par convention, bon, donne des soins à certaines personnes. Hein, moi, je me posais la question, hein, parce que je sais que de nombreux départements fonctionnent par convention entre les MDPH et puis les services de psychiatrie. Hein, et là, au niveau de l'hôpital, on essaye un peu de travailler là-dessus, parce que moi, je pense que trop longtemps, et encore, bon, je le pense encore aujourd'hui, là, MDPH est un petit peu à l'écart de la réalité du terrain. Et bon, il y a donc des nouvelles consignes. Enfin, alors nous, en plus, on est informés de rien. Enfin, en psychiatrie, je dois malheureusement vous le dire. Hein. On apprend les choses un peu sur le terrain, bon, et encore grâce aux assistantes sociales. Et parfois, d'ailleurs, grâce à vous aussi. Bon, donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir sur un changement à ce niveau-là. Et moi-même et d'autres de mes collègues, on est dans un groupe, hein, qui est censé collaborer assez étroitement avec les MDPH pour créer une convention... en faveur, hein, d'une meilleure compréhension de ce qui est attendu par les personnes, hein, puisque bon, quand vous recevez un document qui vous dit que vous avez, on vous accorde une reconnaissance travailleur handicapé ou une allocation adulte handicapé et que vous avez mis 9 mois à avoir la réponse, parfois plus, et qu'on vous dit que c'est valable que pour 3-4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, bon ben... Moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais docteur, je ne peux pas travailler en milieu normal. Comment je vais faire dans 4 ans ?» Ou dans 4 ans et demi. Et après, ils vont mal. Donc, voilà. Donc, il y a une certaine... Moi, je trouve qu'il y a La réalité n'est pas exacte hein, pour la MDPH, mais bon, il faut certainement espérer que ça change et je crois qu'on devrait y arriver. Bon, je ne sais pas quand, mais on espère. Alors, des grandes constantes. Hein, bon, l'insertion professionnelle est fragile, hein, surtout actuellement dans le monde du travail, hein, où à la limite, plus on arrive à être dans des entreprises qui font des profits, plus on a de chances d'être licencié. Pour certaines, je ne citerai pas les grands noms des entreprises florissantes de notre pays. Mais bon, on marche un peu sur la tête hein, pour certaines choses. Et donc, je dirais que l'insertion professionnelle, c'est très bien, mais il faut vraiment avoir conscience que ça reste fragile quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est inséré, on est totalement guéri de tout, il faut arrêter tous ces traitements, tout est merveilleux, etc. Je caricature un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr que souvent, l'accès à une intégration, à un travail, à une reconnaissance, et là, je pense que c'est important de dire qu'on est reconnu quand on travaille. Les chômeurs en souffrent beaucoup. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les troubles hein, psychiques ou psychologiques que vous avez vont totalement disparaître. Hein. Bon, bien sûr qu'il y a des choses qui vont s'amender, hein, mais il ne faut pas non plus penser à des choses pareilles. Alors, il faut au contraire continuer, hein, puisqu'il y a du stress aussi dans le travail. Hein. Il y a quand même, c'est pas évident. Hein. Alors, la psychose. Alors, travailler avec la psychose, donc rapidement, hein, la schizophrénie, une maladie fréquente, hein, 1% de la population, ça commence dans les premières années de l'âge adulte. Il y a une définition que je ne vais pas vous donner dans le détail de l'OMS, hein, mais qui dit que cette maladie perturbe la personne dans ses capacités acquises, et en particulier la capacité de travailler et d'avoir des études à continuer. Il y a des distorsions de la pensée, hein, des hallucinations, parfois des délires de persécution, hein, qui sont très douloureuses et très perturbantes quand elles ne sont pas prises en charge. Alors, on peut dire que dans le monde, il y a 24 millions de personnes qui souffrent de cette maladie, mais enfin là, je vais aller un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour ces personnes ? Alors, il y a un ralentissement quand même hein, qui existe au niveau de la pensée. Hein. Parfois une désorganisation, des symptômes dits négatifs. Alors ça ne veut pas dire que les personnes sont négatives, ça veut dire que les personnes ont un certain degré de déficit. Elles vont par exemple avoir du mal à se lever, du mal à se réveiller hein, le matin. Elles vont avoir du mal à se mettre en action. Hein. Elles ont envie de faire des choses, mais elles n'arrivent pas à les faire. Hein. Et après, il y a les symptômes qui sont plus positifs, hein, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du délire, les hallucinations, qui en général sont bien amendées avec les traitements, hein, mais qui peuvent quand même, pour certains, persister, sans pour autant être des freins complets à l'insertion quand même. Alors, la récupération fonctionnelle et la rémission, à des moindres degrés, sont possibles. Mais bon, c'est comme le diabète, comme l'hypertension, hein, c'est un trouble qui nécessite un traitement sur de nombreuses années. Alors, comment bien accompagner ? Il faut bien évidemment avoir un certain nombre de critères. Hein. Les gens doivent être soignés. Hein. Parfois, les demandes ne sont pas très réalistes, il faut quand même les entendre. Alors, parfois, les personnes refusent catégoriquement d'avoir le statut de travailleur handicapé. Alors, ça doit se respecter. Hein. Il faut du temps hein, pour que la personne elle-même puisse voir qu'est-ce que ça peut lui apporter. Au début, les personnes ont l'impression que ça leur apporte surtout une stigmatisation. Et donc, ça les choque. Hein. Ça les choque. Hein. Les familles aussi, d'ailleurs, parfois. Donc là, il n'y a pas d'urgence, on va dire, à mettre une reconnaissance à un travailleur handicapé à une personne. Ça se travaille aussi. Bon, il y a d'autres étapes souvent qui sont faites auparavant. Hein. Et ce qui est très important, c'est de garder le lien. Hein. Les personnes qui accompagnent, quelles qu'elles soient, on continue. Bon, ça ne lui convient pas. Ben, on va essayer autre chose. On va parler d'autre chose. On n'est pas là pour imposer hein, ce qu'on veut. La personne, il faut continuer à l'écouter. Hein. Même si parfois, on comprend bien que ce n'est pas toujours réaliste. Et là, c'est important que le service de soins et le service d'accompagnement aient un peu le même son de cloche quand même. Hein. Alors, travailler avec syndrome dépressif, alors là, c'est déjà un état, on va dire, qui est différent hein, de la psychose. Hein. La dépression, ça apparaît, je dirais, comme une maladie peut-être un peu plus bénigne. Pour autant, une personne déprimée qui ne se soigne pas, on va avoir l'impression parfois à son travail ou dans une recherche de travail dans sa famille qu'elle n'a aucune volonté, qu'elle ne fait aucun effort, qu'elle est complètement ramollie. Bon, la maladie dépressive est une maladie du cerveau, c'est une maladie biologique hein, qui se soigne, mais qui impose des remaniements importants, le sommeil, la pensée, ça peut aller bien sûr jusqu'aux idées de suicide. Et le travail est considéré comme une source d'angoisse, c'est-à-dire que quand on a un travail, on n'arrive plus à le faire, ça nous angoisse. Quand on n'en a pas, on n'arrivera jamais à en avoir. Alors, ça se soigne, il faut des arrêts de travail. Hein. Alors parfois, quand la dépression devient chronique, on a besoin de reconversion. La personne est même amenée parfois donc, à ne plus pouvoir avoir son travail et ne plus travailler du tout, parfois aussi. Hein. Alors, les troubles bipolaires, c'est encore un peu plus complexe hein, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité dans le travail, beaucoup de changements de poste et des ruptures à répétition qui souvent aboutissent à un isolement et à une perte d'emploi. Pour les personnes qui sont en difficulté de stabilité. Ça concerne un peu de personnes, mais quand même. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'addiction est une maladie ? Oui, hein, c'est comme une maladie. Hein. Alors je ne vais pas en revenir là-dessus trop profondément. Bon, ça se repère quand même pas trop difficilement en général, surtout l'alcool. Beaucoup de chômage. Hein, et bien sûr, des problèmes familiaux. Les troubles anxieux, alors il faut savoir que les TOC, les phobies, les attaques de panique, c'est très fréquent. Si ce n'est pas soigné, les gens peuvent aboutir à ne plus sortir de chez eux. Hein. Bon, plus sortir de chez eux, ne plus conduire, ne plus pouvoir du tout se prendre en charge. Bon, l'handicap peut être majeur. Hein. Et c'est souvent mal compris parce que quand on voit les gens, on dit mais non, vous allez très bien, vous n'êtes pas malade. Les gens ont parfois un peu honte d'expliquer tout ce qu'ils ont et on les voit très tard. Nos psychiatres, ces gens-là, on les voit après des années. Hein. Mais bon, il faut des réadaptations. Les TOC en particulier, c'est assez compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous avez ces personnes-là en soins. Si. Si, hein, oui. Alors, ne pas oublier quand même que le travail, c'est pas forcément très doux. Hein. Il y a quand même de la violence hein, et il y a parfois des situations de stress post-traumatique, des gens qui sont malades à travers leur travail. Hein. Mais bon, là, ça paraît un peu hors sujet. Alors, le traitement psychotrope, bien évidemment, un traitement qui ne vous donne aucun effet secondaire, même minime, c'est pas vraiment un traitement. Hein, donc, c'est peut-être du placebo. Hein. Et encore, même le placebo peut donner des effets secondaires. Donc, il y a forcément quelques effets quand même qui peuvent être perturbants. Mais bien évidemment, s'il n'y a que des effets perturbants dans votre traitement et aucun effet qui vous paraît bien, il faut refaire le point avec votre médecin, un truc qui ne va pas. Hein. Donc là, maintenant, on informe beaucoup les gens hein, sur les traitements, beaucoup plus. Hein, et d'ailleurs, le Vidal est en accès total partout. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce qu'il y a dedans. Hein, mais bon, il faut vraiment tenir compte de certains effets, et en particulier par rapport à certains postes de travail. On informe. Alors maintenant que M. Gentil est complètement prêt à faire son topo, je vais lui laisser la parole. Hein. Je vous remercie de votre attention.
Bien.
Alors, on aura tout le lieu de poser des questions, bien évidemment, après.
Bien, je vais essayer de faire aussi bien que Madame Lévy-Chavagna. Oui, essayez de me mettre le diaporama. Tout d'abord, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le docteur Lévy tout à l'heure, qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de service. Enfin, je voulais remercier aussi à ce titre l'UNAFAM, sans qui on ne serait pas là, puisque les services de l'UDAF sont aussi des projets qui ont été co-réalisés avec l'UNAFAM. Donc voilà, c'était à signaler qu'effectivement, il y a 10 ans, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, il y a, donc on peut essayer. C'est pour ça que le thème de ce soir, on a voulu l'intituler au niveau d'Espoir 86, une proposition d'accompagnement, alors qui n'est pas une fin en soi, mais qui peut être une proposition, et qui peut, on va essayer d'accompagner la personne. Hein, c'est pas dit que ça marche, mais on va tout au moins essayer. Et comme le disait le docteur Lévy tout à l'heure, on va écouter ce que la personne a à nous dire de son projet et on va essayer de l'accompagner dans ce projet-là, tout en la ramenant sur une, parfois sur une certaine réalité hein, par rapport à... Mais on va rebondir là-dessus. Alors tout d'abord, donc, moi je suis Patrick Jonty, je suis chef de service du pôle insertion de l'UDAF. Actuellement, nous sommes quatre à travailler sur le service, plus une secrétaire. Donc trois conseillers qui interviennent sur tout le département de la Vienne, donc en convention avec l'hôpital Henri Laborie et en partenariat avec OPS Cap Emploi, avec le Pôle Emploi, donc ex-ANPE. Voilà, on essaie donc d'accompagner des personnes reconnues travailleurs handicapés vers le milieu ordinaire de travail. Alors, on a la façon dont on travaille sur Espoir, c'est de préparer et d'accompagner l'insertion professionnelle en milieu ordinaire, et ça je le précise bien, de travail des personnes en situation de handicap psychique. On a à les accompagner dans la définition et la construction d'un projet professionnel cohérent. Alors ça, c'est un travail qui peut demander du temps. Du temps pourquoi ? Puisqu'on a des personnes qui vont arriver, qui vont être qualifiées, et souvent, la maladie fait qu'il y a une altération des compétences acquises lors de cette formation-là, et qu'il faut souvent pouvoir rebondir sur une autre formation, sur un autre métier. Donc effectivement, ça demande effectivement parfois un travail de deuil de l'ancienne profession pour rebondir, puisque notre travail va être de prendre en compte le résiduel, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir mobiliser chez la personne dans le cadre de l'exercice d'une profession. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous pourrez poser des questions par la suite. Voilà. Donc on a accompagné aussi dans ce cadre-là vers la recherche d'emploi. Pareil, le docteur Lévy a très justement rappelé que le contexte économique n'était pas des plus favorables aujourd'hui, mais qu'on peut espérer mieux. Et enfin, de permettre la pérennisation de l'emploi par un suivi. Alors, c'est une spécificité de notre service, et j'espère que ça va durer, c'est qu'il y a une prise en compte du travail qui a été fait au service. Enfin, je le dis comme ça parce que c'est aussi une certaine réalité. Et ce qu'on a toujours dit au niveau du service, c'est qu'insérer une personne, c'était bien, mais pouvoir la maintenir dans l'emploi, c'est encore mieux. Donc jusque-là, on est suivi par des financeurs qui vous seront présentés tout à l'heure. Donc on a un financement pour suivre la personne une fois qu'elle est en entreprise. Et ça, c'est un point supplémentaire, puisqu'on va être amené à travailler avec plusieurs entreprises pour pas adapter le poste de travail, parce que bien souvent, on n'a pas adapté le poste de travail, mais à mettre en place des outils sur le plan organisationnel pour que la personne puisse se sentir bien dans son emploi. Voilà. Donc comme tout service, on a des conditions d'admission qui sont effectivement relevés, être bénéficiaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est désormais donnée par la Maison départementale des personnes handicapées. Alors le docteur Lévy rappelait aussi toutes les difficultés qu'il peut y avoir à accepter ce statut-là, mais ce statut-là qui dans aucun cas se veut privatif, mais plutôt une aide à l'insertion. Alors bénéficiaire d'une RQTH, de l'allocation d'adultes handicapés et d'une pension de validité. Une autre des conditions, c'est être demandeur d'emploi, inscrit auprès du Pôle emploi. C'est aussi bénéficier d'un accompagnement thérapeutique. Ça, c'est indispensable. C'est inscrit, nous, dans le contrat d'accompagnement qui est signé avec la personne. Sans ce suivi-là, on ne peut pas y arriver. Puisque nous, on n'est pas soignants, on est travailleurs sociaux, et on essaie d'accompagner de notre mieux les personnes vers l'emploi. Et enfin, un des points les plus importants, c'est être motivé. Je crois que la motivation à travailler en milieu ordinaire, ou au moins la motivation à évaluer cette possibilité-là, est importante pour nous, puisqu'on va se saisir de cet outil-là aussi pour accompagner la personne. Alors comment ? Ce qu'on essaie de faire, effectivement, on adapte. Chaque année, on accompagne à peu près 80 personnes nouvelles, c'est-à-dire qu'en flux, on a à peu près 120 personnes à accompagner. Hein. On essaie d'individualiser au maximum et respecter le rythme de la personne. Si on ne respecte pas le rythme de la personne, le docteur Lévy a pointé tout à l'heure, et là encore justement, j'arrête pas de le dire, mais c'est important, tout ce qui découle de la maladie, en fait, tout ce à quoi on s'intéresse, nous, le handicap, en fait, hein, tout ce que va rendre difficile la maladie. Donc si on ne tient pas compte de l'individualisation, de l'accompagnement et de la démarche progressive, ça ne va pas pouvoir se faire. La façon dont on travaille aussi, c'est le partenariat étroit avec les entreprises, le Pôle emploi, Cap emploi, le centre hospitalier Laboris, qui est quelque chose d'encore plus positif. La complémentarité entre les différents intervenants du social, du médical et de l'économique. On essaie de rendre aussi la personne responsable de son projet. On ne va pas faire à la place de la personne, mais on va saisir le temps où la personne est prête à le faire. Hein, je vais donner un exemple. Je ne vais pas vous décrire toutes les phases de l'accompagnement du service, mais simplement quand on va, ce qui va permettre le plus à la personne de se rendre compte de sa possible insertion en milieu ordinaire, c'est l'immersion en entreprise. L'immersion en entreprise, on ne va pas le faire quand nous on pense que c'est possible, mais on va le faire quand la personne pense qu'elle c'est possible. Hein, donc ça c'est important, parce qu'on peut avoir une vision et la personne a la meilleure vision d'elle-même. D'accord ? Donc on peut dire la personne elle semble prête, mais on va pouvoir attendre et on va préférer attendre, ça toujours en lien avec les infirmiers, que la personne nous dise voilà, je suis prête, je peux y aller. D'accord ? Parce que la personne peut nous dire oui, je suis prête, mais nous faire plaisir. Sauf qu'on n'est pas là pour que la personne nous fasse plaisir. Il faut vraiment que la personne s'approprie ce projet-là. Voilà. Et puis, le gros travail qu'on a à faire, c'est l'identification des freins à l'insertion. Alors, tout à l'heure, on a abordé les problèmes liés à la très grande précocité dans le projet professionnel. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne ne soit pas bancale, entre guillemets, avant d'aller vers le travail. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une situation sur le plan social, un problème de logement, un problème de surendettement, qui va lui parasiter les idées et l'empêcher d'être bien son travail. Donc notre travail, ça va être aussi d'essayer, on n'est pas des super magiciens, mais d'essayer de prendre en compte un peu tous ces freins, de les nommer et de les travailler avec la personne. Hein, et pour voir, de manière essayer de régler au fur et à mesure. Et mettre en place des outils qui vont permettre de dépasser ces freins-là. Voilà. Après ça, on pourra effectivement travailler sur le travail. Mais il faut que la personne soit bien dans sa tête, soit libérée de certains soucis pour pouvoir mieux appréhender le travail, qui est, on peut avoir envie d'aller vers le travail, hein, cette envie-là, mais une fois qu'on y arrive, être pris de panique. D'accord ? Donc il faut au moins être dans de très bonnes conditions. Alors, pour qu'un projet professionnel soit cohérent, il est important de prendre en considération, alors je vous l'ai mis dans des grosses bulles parce que c'est important, c'est aussi notre travail qui doit être honnête, hein, on doit vous faire part aussi du marché du travail, ce qu'il en est réellement, quels sont les secteurs en tension, quels sont les secteurs complètement bouchés, et c'est pas mes collègues de OPS Cap Emploi qui démentiront, c'est aussi prendre en compte l'handicap psychique, je dis bien l'handicap psychique et pas la maladie, hein, on prend en compte vraiment les conséquences de cette maladie, et les compétences professionnelles et les goûts personnels. Alors, on a des outils au sein du service qui sont des ateliers qu'on utilise, des groupes de 5-6 personnes, qui sont mis en place pour favoriser l'échange entre des personnes, puisque c'est à ce moment-là que des personnes peuvent se découvrir des compétences qu'ils n'ont pas imaginées, des envies de faire autre chose que ce pour quoi elles étaient prédestinées. Enfin, on va essayer de travailler sur tout ça, hein, sur des loisirs, sur du transfert de compétences. Par exemple, j'ai souvenir de quelqu'un qui avait fait un BTS en comptabilité gestion, qui ne pouvait plus du tout travailler dans un bureau, et qui, en revanche, chez ses parents, aimait bien faire du jardinage. On s'est saisi de cette opportunité-là, le jardinage, pour dire, peut-être qu'une immersion dans une entreprise qui fait de l'espace vert vous conviendrait. Et en fait, la personne a fait son stage, y a travaillé, et c'était vraiment un cadre de travail qui était favorisant pour elle, quoi, et stabilisant en plus. Donc il y avait le stress en moins. Donc ça, c'était important. Alors pour illustrer un petit peu ça, ma collègue, donc Anne Pichou, qui est conseillère, va vous parler un petit peu de deux parcours, hein, qui ont lieu chez nous.
Bonsoir, donc Anne Pichou, je suis conseillère sur le service Espoir 86. Donc, on dit conseillère en insertion, mais on est bien sur l'accompagnement socio-professionnel, donc sur un accompagnement global et, comme disait Patrick, sur une prise en compte aussi de l'aspect social, pas seulement sur l'aspect professionnel, l'aspect social, l'aspect médical et ensuite l'aspect professionnel. Donc, je vais vous présenter deux parcours de personnes qui sont maintenant insérées. Donc d'abord une femme, hein, de 35 ans, mariée, deux enfants, qui est sur le secteur de Châtellerault. Donc à l'entrée dans le service, c'était une dame qui était très isolée. Elle ne travaillait plus depuis plusieurs années et elle ne sortait quasiment plus de chez elle, sauf pour accompagner ses enfants à l'école. Hein, elle ne faisait vraiment plus rien. Elle avait une image très détériorée d'elle-même, mais par contre une motivation et une envie de changer et d'aller vers l'emploi, vraiment, elle était très déterminée. Donc Donc, elle possédait un permis de voiture, un véhicule. Elle était titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et c'est l'hôpital de jour de Châtellerault qui nous l'avait orientée. Donc, elle est arrivée au service en mars 2006. C'était le début de l'accompagnement. Son projet, c'était de retrouver un emploi d'agent d'entretien ou d'employé libre-service sur le secteur de Châtellerault. Et elle envisageait un poste à temps partiel et encadré dans un premier temps. Parce qu'en fait, c'est une dame, de par le traitement qu'elle prenait, il y avait une grande fatigabilité. Et l'encadrement, c'était essentiellement pour la rassurer. C'était quelqu'un, comme je vous disais, qui avait une image assez détériorée et donc qui avait besoin d'être rassuré et encadré. En fait, au début de l'accompagnement, ce qui a surtout été pris en compte, ça a été, comme je vous disais, d'abord de l'accompagnement social, c'est-à-dire de l'amener à sortir de chez elle. Donc, il y a eu une proposition, pourquoi pas, d'accompagner ses enfants à la bibliothèque, ce qui était inenvisageable pour elle au départ. Et c'est des petites choses, elle s'est fixée des petits objectifs comme ça. Alors, bien sûr, on a travaillé en lien avec le soin. Et le début de l'accompagnement, c'était vraiment essentiellement ça. Après, il y a eu un travail sur le CV. Elle a aussi participé aux ateliers du service, comme disait Patrick. Donc, elle s'est retrouvée en groupe. C'était une marche supplémentaire à franchir pour elle. Et ensuite, donc, l'étape suivante, ça a été la mise en situation dans une entreprise. Donc, nous, c'est un outil de Pôle emploi, c'est l'évaluation au milieu de travail. C'est un stage de 15 jours. Donc, on a trouvé une entreprise à proximité de chez elle et elle a pu effectuer un stage d'agent de propreté pour une collectivité. Ça s'est très, très, très bien passé. Alors, on était sur du temps partiel, 20 heures semaine. Et ça, vraiment, c'était, on va dire, un petit peu le moment déclencheur dans l'accompagnement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était encore capable de faire quelque chose, qu'elle était capable de s'intégrer dans une équipe. Et le retour a été très, très positif. Donc, après cette EMT, il lui a été proposé une pré-formation. Alors, ce n'est pas une formation qualifiante à proprement parler, mais c'était une formation sur 3 mois sur les métiers de la propreté qui était dispensée par un service, un centre de formation. Elle a postulé, elle a passé avec brio les entretiens de motivation avant cette formation et elle a suivi la formation pendant 3 mois. Donc là, c'est vrai que l'accompagnement Espoir 86 a été un petit peu en retrait, mais on maintenait une rencontre, on va dire une rencontre par mois avec le centre de formation et avec cette dame pour faire le point, savoir comment ça allait sur le lieu de formation, sur le lieu de stage, parce que c'était une formation très pratique. Et donc, au terme de cette formation, elle a été recrutée en CDI dans une entreprise dans laquelle elle avait fait un stage et elle est toujours en emploi actuellement. Et le service, moi je continue à la voir. Alors c'est un suivi, on ne peut pas dire un suivi dans l'entreprise à proprement parler, parce que c'est une dame que je vois à l'extérieur de l'entreprise, mais j'ai eu des contacts téléphoniques au départ avec l'entreprise. Voilà. Donc elle est toujours sur du temps partiel. Et là, donc les derniers entretiens que j'ai eus avec elle, elle souhaitait augmenter un petit peu son temps de travail, parce qu'elle se sentait mieux, plus dynamique et plus à même de faire un petit peu plus d'heures. Voilà.
Alors, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que disait Anne. Alors, c'est quelqu'un que j'ai suivi, moi, à un moment donné. Mm. C'est là le lien. Le lien avec la médecine est important. C'est quelqu'un qui était fatigué en début d'après-midi. Et le fait de pouvoir observer ça en terrain professionnel a permis... on a pu contacter le médecin, lui dire, voilà, on observe ça. Est-ce qu'il serait possible de modifier le traitement? Enfin, de voir ce qu'il est possible de faire. Et ça, je crois que ça, c'est important. Puisque ça a permis à la personne, finalement, d'être mieux l'après-midi et de pouvoir être maintenue dans l'emploi. Enfin, voilà. Voilà d'où l'importance de voilà. Ce travail.
Et c'est vrai que là, pareil, c'est un parcours vraiment... Il fallait y aller doucement. Et avec faire attention au temps de travail, à la fatigabilité, parce qu'elle était aussi chargée de famille avec des enfants qui sont encore en bas âge et donc besoin d'avoir encore de l'énergie au retour à la maison. Quoi. Voilà. Alors nous, on ne parle jamais de diagnostic avec les personnes qu'on reçoit. On ne connaît pas le diagnostic et quelque part ça ne nous intéresse pas beaucoup parce qu'on va travailler finalement avec les capacités résiduelles. Et on va prendre en compte les conséquences de la maladie, donc les incapacités et le handicap. Donc avec l'habitude, c'est vrai qu'on peut deviner plus ou moins, on connaît. Et puis le lien avec le soin fait que, voilà, on a... Mais jamais, enfin, si la personne n'aborde, ne va pas parler de sa maladie avec nous, nous, on ne lui en parlera pas. On parlera essentiellement des conséquences, des effets secondaires du traitement, parce que finalement, par rapport à l'emploi, c'est ce qui nous intéresse.
Et avant qu'on accompagne une personne, de toute façon, on se retourne systématiquement vers le soin en présence de la personne, en demandant l'avis du médecin concernant le fait qu'elle puisse entreprendre une démarche d'insertion professionnelle. L'avis est remis à la personne et qu'elle nous transmet. Je crois qu'aussi la force de notre service, c'est qu'il y a un respect aussi des compétences du médical, qui respecte aussi nos compétences. Je crois qu'on est dans une transparence. Les dossiers qu'on a au niveau du service sont consultables par les personnes. Quand je dis qu'on note, ça nous arrive de noter si la personne nous dit ce dont elle souffre, là on va le noter, si c'est un élément important pour nous, mais si ça ne l'est pas, on ne va pas le noter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, voilà, ce qu'on prend en considération, ce que disait ma collègue, c'est toutes les capacités résiduelles, tout ce qui est de l'ordre des habilités professionnelles, des habilités sociales. Voilà ce qui nous intéresse.
Puis c'est vrai, si la personne a besoin de vous en parler, elle vous en parle.
Donc, je crois voilà,
c'est ça aussi. Ça c'est, mais bon, après ça dépend des gens.
Oui, voilà. Donc l'autre exemple de parcours, c'est aussi quelqu'un de Châtellerault, parce qu'en fait j'interviens sur ce secteur-là, donc c'est deux exemples.
Tous les troubles psychiques ne sont pas que
Châtellerault. Voilà, c'est ça, c'est vraiment simplement parce que... Donc c'est un homme d'une trentaine d'années qui vit maritalement. Donc à son entrée au service, c'est quelqu'un qui est demandeur d'emploi, inscrit à l'NPE, indemnisé par les ACEDIC, qui avait validé un diplôme de niveau 4. Son souhait, c'était de reprendre une activité professionnelle assez rapidement, parce que c'est un monsieur qui finalement avait eu peu d'interruptions depuis sa dernière expérience professionnelle, il y avait juste un an d'interruption, hein. Et il avait des choses qu'on doit prendre en compte, qu'on doit écouter aussi, des soucis financiers, c'est-à-dire que ses indemnités ACEDIC arrivaient à la fin, et c'était une pression supplémentaire pour lui. Et c'était vraiment à prendre en compte dans son parcours. Donc il hésitait entre deux postes, deux orientations professionnelles, parce qu'il avait des compétences assez variées. Il hésitait entre un poste de conducteur d'engin de chantier, à savoir que son traitement n'empêchait pas ce poste-là. Et agent des espaces verts. Il avait les compétences dans les deux secteurs d'activité. C'est quelqu'un d'extrêmement motivé et de relativement autonome dans sa recherche d'emploi, en fait. Donc, il avait, ce que je vous disais, déjà travaillé pas mal, donc sur des postes comme en boulangerie pendant 4 ans. Il avait également travaillé dans l'industrie pendant une année. C'est à ce moment-là que ces problèmes de santé ont apparu. Et là, il y a eu une longue interruption, 4 ans d'interruption dans son parcours d'insertion professionnelle. Et il avait recommencé à se former en 2007 sur un secteur d'activité complètement différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Et il avait validé, en fait, ses CACES. Alors, c'est les permis de conduire pour les engins de chantier. Hein. Voilà. Et après donc, la validation de ses permis, il avait travaillé sur des postes en intérim. Et là, il a été victime d'un accident du travail, d'où l'arrêt d'un an. Et c'est à partir de ce moment-là où moi, je l'ai vu. Et l'accident du travail a été tout à fait différent du handicap dont il souffrait. Mon travail avec cette personne, ça a été essentiellement de l'aider dans sa prospection de recherche d'emploi. Et d'intervenir, on va dire, dans l'organisation qu'il avait et les priorités. Parce que quand le docteur Lévy parlait de difficultés de jugement, il y a eu ces choses-là qui se sont passées, où à un moment donné, finalement, il n'est pas allé à un entretien d'embauche dans une mairie pour un poste d'agent d'espace vert, alors que c'était le deuxième. Il avait passé le premier entretien avec succès, donc il était attendu une deuxième fois. Et il n'y est pas allé parce qu'en fait, une boîte intérimaire l'avait appelé pour une mission de 3 jours. Voilà, et donc tout le travail, ça a été avec lui de l'accompagner justement dans les priorités et dans l'organisation, dans sa recherche d'emploi. Et c'est quelqu'un qui a trouvé assez rapidement un poste de conducteur d'engin, donc sur Niort. Donc il a fallu là organiser, quand je vous dis c'est une prise en charge globale, il a fallu organiser un hébergement sur place là-bas, Donc en lien avec un financement Pôle emploi, parce que c'est quelqu'un qui avait un loyer sur Châtellerault. Hein. Donc il y a eu tout le travail en partenariat aussi, et tout ce travail d'ordre social qui allait autour de l'emploi. Donc il a fait cette mission intérimaire sur Niort d'un mois, et il a été recruté dans une entreprise, pas dans la même, dans une entreprise à côté, sur un CDD de 6 mois, juste à la suite de ces 1 mois de travail en intérim. Et donc là, moi, j'ai eu contact. Comme c'était sur Niort, je n'ai pas pu me déplacer dans l'entreprise, mais j'ai eu des contacts au téléphone avec l'entreprise. Et je continue à voir le monsieur une fois par mois à l'agence Pôle emploi de Châtellerault. Et donc, au terme des 6 mois de CDD, il y a eu un CDI de signé cet automne, là, en novembre 2008. Et c'est quelqu'un qui est toujours en emploi. Et du coup, on a aussi organisé le déménagement définitif, donc dans les Deux-Sèvres. Voilà. Donc, si vous avez des questions.
Okay, oui, des questions, puis après je terminerai sur le... Non, mais s'il y a des questions par rapport à ça, oui.
Non, et moi, je fais que passer le micro et assurer la fluidité du truc, donc... Vous souhaitez continuer ou...
Les questions viendront peut-être après.
Oui, elles viendront peut-être après. Non, je voulais juste présenter quand même nos partenaires quand même qui nous suivent et préciser que simplement que la personne est sur Niort et que Niort vient d'ouvrir un service d'insertion professionnelle, Espoir 79. Voilà, donc c'est en train de les semer. Et puis
ils ont copié.
C'est très bien. Donc voilà, nos partenaires, je voulais simplement le rappeler, qu'on est financé par une action de la AGFIP, du Conseil Général pour ce qui est de l'accompagnement social et la DDTEFP dans le cadre d'un projet qui est en train de se mettre en œuvre là, en direct avec OPS Cap Emploi, le SAMET, le service de maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés et le médecin du travail sur une action d'accompagnement en entreprise qui concerne donc une année d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi, des interventions en prévention en entreprise, hein. Et puis une action qu'on faisait déjà officieusement et qui est reconnue maintenant, des formations de tuteurs en entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui accueille, jusque-là on formait le référent à ce que c'était que le handicap psychique, comment s'y prendre avec la personne, comment alerter et préparer son intégration à l'équipe, comment la favoriser. Voilà, bon, il y avait plein d'inquiétudes, hein, et quelque chose qui nous tient à cœur quand même. Parce que c'est important. Donc voilà nos partenaires.
Et notre sur cette diapo, là, la précédente, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le FIP-HFP, puisque alors, la même loi s'applique à tout le monde.
Oui,
et donc,
alors, y a ça pas intervient. Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce qu'il y a mes collègues de OPS Cap Emploi qui sont là. Le FIP-HFP, donc, nous avons rencontré au sein du service. Pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, dans les fonctions publiques. Donc, on décidait, je me retourne vers vous, on me dira si je me trompe, on décidait de déléguer les fonds à OPS Cap Emploi, c'est ça, pour des actions d'insertion dans la fonction publique. Hein, c'est ça, voilà. Voilà, et si vous voulez, pardon, par le biais de la GFIP, c'est ça. On insère, nous, dans la fonction publique, ce qui est dit au niveau du FIP-HFP, c'est que c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on sait bien que ce soit la GFIP qui s'en occupe après, puisqu'il faudrait que l'entreprise, qu'on puisse facturer nous une intervention et que la collectivité se fasse rembourser après. Hein, c'est ce qui a été demandé quand j'avais rencontré M. Hermel. Donc voilà, mais il n'y a pas le FIP-HFP puisqu'il ne nous finance pas directement. Hein. Nos financeurs restent ceux-là. Voilà, alors au niveau des partenaires, ben c'est assez riche, hein, puisqu'on touche effectivement l'insertion socio-professionnelle. Donc il y a Pôle emploi, bien évidemment, le centre hospitalier Henri Laborie, l'UNAFAM, le Conseil général, les centres de formation, puisque nos objectifs sont l'emploi en milieu ordinaire de travail, mais aussi la formation qualifiante, OPS Cap Emploi, j'arrête pas de le citer, je vais arrêter, les missions locales d'insertion, avec qui on travaille beaucoup. Alors les SIAE, c'est tout ce qui est entreprise d'insertion, chantier d'insertion, qui sont pour nous, alors souvent c'est pas très valorisé, mais pour nous ça peut être une étape hyper importante, hein, c'est dans le parcours d'une personne. Ça peut être 2 années qui permettent d'aller vers l'emploi sur un mode allégé, dans le sens où c'est du temps partiel, dans une petite équipe, ce qui permet à la personne de reprendre confiance en elle, puisque ce qu'on n'a pas dit jusque-là quand même, mais bon, c'était à travers les lignes de ce que disait le docteur Lévy, c'est le manque de confiance en soi, c'est une image de soi souvent cassée, Et reprendre confiance en soi, ça peut être par le biais, bah, effectivement, d'intégrer un chantier d'insertion où les équipes, c'est 6-7 personnes, alors des personnes qui ont des parcours complètement différents, des difficultés différentes, mais qui vont permettre à la personne de se sentir bien, de se réadapter à un travail avec des horaires de travail, une mission à accomplir, un contrat à respecter, parce que c'est ça aussi aller vers l'emploi. Hein, c'est se lever le matin, c'est tenir sur son poste, puisque c'est ça aussi contre salaire, c'est bah, apprendre des choses aussi, puisqu'on est là, et réapprendre des gestes. Hein. On parlait tout à l'heure, et j'y pense maintenant, sur l'adaptation au poste de travail, c'est aussi une des difficultés par rapport au handicap psychique, c'est d'arriver à se repérer dans le cheminement de son travail. Je m'explique, je prends souvent cet exemple-là, mais il est important. Quelqu'un qui travaille dans les espaces verts et qui doit tondre à 3-4 endroits différents. La difficulté qu'il va avoir, c'est qu'à un moment donné, il ne va plus savoir où il est passé et ce qu'il lui reste à faire. Donc notre action va être de mettre en place des petites fiches techniques où la personne devra cocher en fonction des lieux où elle est passée. Et ça va la rassurer, ça va lui permettre de savoir, voilà, ça je l'ai fait, je passe au suivant. Hein, on est vraiment sur du séquentiel, il nous faut tout découper, la tâche. Un des outils aussi qu'on adore au niveau du service, c'est le petit carnet, où la personne va noter ses rendez-vous, où elle va noter les choses importantes, que ce soit les rendez-vous avec l'hôpital, que ce soit les rendez-vous avec nous, et le calendrier sous le frigo où seront notées les choses importantes. Voilà, ça c'est des outils qui sont tout bêtes, mais qu'on essaie de mettre en place au maximum. Voilà, alors après, les partenaires sont forcément les entreprises et les collectivités, les médecins du travail avec qui on travaille, et on va renforcer ce partenariat-là, et puis donc les médecins psychiatres libéraux, puisqu'on ne travaille pas qu'avec le centre hospitalier d'Arborie, on travaille aussi avec les psychiatres libéraux. Voilà, et à la fin, je vous ai mis un petit peu l'évolution, puisque nous, on est tout récent, on n'existe que depuis novembre 2004, un petit peu la progression des accueils au sein du service. Et alors vous avez tout, hein, vous avez les accueils en mauve, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on a pu recevoir, à chaque fois ce sont des personnes nouvelles, en vert, les accompagnements qui ont été réellement faits, puisqu'il faut différencier entre le mauve et le vert. On a des personnes qui peuvent venir nous voir pour une information et ne pas, parce que l'infirmier a conseillé, le médecin a conseillé, l'éducateur a conseillé, et la personne ne pas se sentir prête. Donc la personne peut nous dire, voilà, je ne me sens pas prête, ou nous dire à la personne qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Et la personne aura la possibilité de revenir plus tard. Hein, on n'est pas quelque chose de fermé, c'est parce qu'on ne prend pas une personne tout de suite qu'elle n'aura pas la possibilité de revenir. Hein. On voit des gens qui reviennent 2-3 ans après, et qui sont à un stade de plus grande maturité par rapport au projet professionnel. Hein, puis il y a des chemins qui sont qu'il faut emprunter, et puis voilà. Donc voilà, et puis après, en bleu, les personnes qu'on a pu insérer. Hein. Alors sur ce, je vous dis, à l'heure actuelle, au 31 décembre, on accompagnait à peu près 130 personnes, 120-130 personnes, et depuis l'ouverture, donc on a, vous faites le total, je n'ai plus le chiffre exact, des personnes en entreprise qu'on a pu intégrer. Alors vous faites 3 plus 11 plus 24, docteur Lévy, non?
48,
voilà.
87,
voilà. Donc c'est sur des CDI, sur des formations qualifiantes, souvent de longue durée, et des CDD de 6 mois. Voilà l'activité du service. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vas-y.
Oui, on voulait aussi un petit peu identifier ce qui faisait qu'un parcours aboutissait ou pas à l'emploi. Donc, avec les collègues, on s'est un peu concerté.
C'est très important de revenir justement.
Voilà, d'avoir un petit peu de recul par rapport aux parcours qui ont abouti à un emploi, puis ceux pour qui, bah, pour l'instant, c'est pas possible, ou c'est différé, ou c'est réorienté. Hein. Et ce qui apparaît, c'est qu'il y a des causes qui sont environnementales. Comme disait le docteur Lévy, hein, c'est le marché de l'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout et on doit faire avec. Donc, il y a en effet la crise, mais aussi des secteurs d'activité qui recrutent plus ou moins, qui sont plus ou moins ouverts. Dans les causes environnementales aussi, c'est tout le travail en partenariat que nous, on peut tisser parce qu'on s'est aperçu que c'est impossible de réussir tout seul dans son coin pour accompagner quelqu'un qui souffre de maladies psychiques, et qu'il est essentiel de faire du lien entre les personnes qui travaillent avec elle au niveau du soin, les personnes qui travaillent au niveau social, les personnes qui travaillent au niveau de l'insertion professionnelle, les entreprises, et que c'est ce lien-là qui fait qu'à un moment donné, ça peut marcher ou pas. Après, il y a des causes qui sont plus liées à la situation de la personne. Donc, comme disait le docteur Lévy, il y a la situation sociale, la stabilité sociale, savoir si la personne elle a un logement, elle a une famille, elle a un véhicule. Enfin, ça peut passer par des choses comme ça aussi. Il y a aussi le parcours de la personne. Quelqu'un qui a déjà travaillé, ça va être plus facile. Enfin, on s'est aperçu dans les gens qui avaient été insérés, c'est des gens qui avaient en général déjà un parcours derrière eux, même s'ils ne travaillaient pas dans le même secteur d'activité. Le fait d'avoir connu le secteur marchand et le secteur de l'emploi, c'était un point positif. Une des choses très importantes, le docteur Lévy l'a signalé aussi, c'est l'observance du traitement et du soin. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument radical. Il y a des personnes qu'on accompagne qui ont été en emploi et qui, à partir du moment où ils étaient en emploi, se sont dit bah, « ça y est, c'est gagné » et ont arrêté la prise du traitement. Et là, ça a été la débandade. Et à chaque fois qu'il y a arrêt de traitement, à chaque fois, il y a une rechute dans les mois qui suivent. Hein, donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et l'autre, c'est... le docteur Lévy parlait d'inside. Alors nous, on n'avait pas ce mot-là, mais on parlait en fait de s'approprier les capacités restantes, la maladie, le handicap, c'est savoir comment la personne elle est avec ça, en fait. Hein. Et une personne qui a accepté le fait qu'en effet il y a des choses qu'elle peut plus faire. Qu'il y a des choses qui sont difficiles et même des choses qui lui paraissaient très simples avant. Là, on va pouvoir avancer beaucoup plus facilement qu'une personne qui n'a pas cette conscience-là ou qui ne l'a pas intégrée. Hein. Voilà, donc on parle aussi de déni. On voit des personnes qui viennent nous voir et qui n'ont pas du tout conscience de leurs troubles et qui pourtant ont du mal à se lever, ont du mal à arriver à l'heure et qui nous parlent de temps plein, travailler à temps plein tout de suite, maintenant. Hein.
C'est là qu'on voit le décalage entre la réalité et le déni de cette réalité.
Voilà.
Et ça aussi, bon, ça se travaille. Il y a de l'information, il y a des ateliers thérapeutiques à faire. Peuvent précéder l'insertion aussi. Ouais. Hein,
mais faut du temps. Et c'est des gens qu'on reçoit de toute façon. Toutes les personnes qui font une demande au service sont reçues, au moins pour un premier accueil.
C'est très important, ça.
Voilà.
Les gens sont très sensibles. Hein. Ils ont des rendez-vous.
Voilà.
Ça aussi, déjà, c'est le début aussi de quelque part un peu d'une rigueur aussi autour de
ouais.
Il y a le premier entretien et dès qu'il y a accompagnement, c'est ce qu'on a parlé un peu en filigrane tout à l'heure, il y a un contrat d'accompagnement. Hein, qui est signé par la personne, justement, où nous, on précise nos engagements. Hein, on va contractualiser notre relation, donc notre accompagnement, hein, qui est avant tout une relation. Et il va être précisé. Alors, il y a nos engagements, il y a les engagements de la personne, il y a les engagements en filigrane aussi de l'hôpital Henri Laborie. Et puis, il est spécifié, effectivement, cette question de l'arrêt de traitement. Nous, s'il y a arrêt de traitement, effectivement, on arrête l'accompagnement, puisque ça ne va pas fonctionner. On le sait, hein, ça va. On préfère prendre des précautions et que tout se passe bien. Et ça marche, je vous l'ai montré tout à l'heure, parce qu'il y a le soin, parce qu'il y a l'entreprise et parce qu'il y a le service d'insertion. Voilà, il y a cette triangulation qui est importante pour que ça puisse fonctionner.
Et donc non seulement il y a le contrat qui est signé, mais il y a aussi un protocole pour les gens qui sont accompagnés par le centre hospitalier Henri Laborie. Donc ils signent un contrat avec notre service, mais il y a aussi un protocole de signer par le CHHL, par le médecin et l'infirmier référent de la personne. Voilà.
Toujours, et ça c'est vraiment important parce que nous on s'y réfère. Hein. Du côté, il y a un contrat qui a été signé, donc vous avez un engagement par ESPA 86. Nous aussi on s'est engagé avec vous, hein, donc bon, vous avez intérêt un petit peu à faire un effort. On croit en vous, hein, c'est pour ça qu'on a signé ce protocole. Enfin, on essaye un peu de les motiver en disant que bon. C'est important, je veux dire, de signer quelque chose, c'est pas anodin. Je veux dire, on est quand même dans une contractualisation qui peut être source de maturation, hein, pour la personne. Bon, alors après, comme vous disiez, ça marche pas toujours tout de suite. Il faut parfois chuter à plusieurs reprises pour remonter, mais bon, ça se voit beaucoup. Nous, on a l'habitude, hein, des personnes souvent au début de la maladie, en particulier psychotique ou schizophrénique, hein, qui sont pas tellement ils sont beaucoup dans le déni, donc bon, ils sont hospitalisés un certain nombre de fois. Et puis un jour, il y a quelque chose qui se passe, hein, et on a vraiment un vrai lien de soins qui se crée. Et donc, bon, à partir de là, des choses se construisent, mais ça peut prendre un certain temps. Mais ça ne veut pas dire qu'en effet, si ils ont été une fois chez vous et que ça n'a pas marché, ils ne peuvent pas y revenir. Donc,
Et donc, dans des derniers éléments de réussite, c'était aussi le respect de l'avancement progressif, en fait, de respecter, de passer par plusieurs étapes et d'avancer doucement, parfois, pour arriver à l'objectif final. Voilà ce qu'on avait pu identifier. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui nous semblaient prépondérants, en tout cas, dans l'accompagnement, dans l'expérience qu'on a, nous, de l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique.
Voilà, puis c'est propre à chaque personne aussi. Hein. C'est,
voilà.
On peut pas, autant il y a de personnes qu'on va accompagner, il peut y avoir des similitudes, mais autant les parcours sont différents, autant les compétences sont différentes. Et, voilà. Et on doit prendre en compte tout ça. Je voulais juste rajouter que sur l'affiche, vous avez dû voir que Claire Epenoy de la mission locale devait participer, mais elle n'a pas pu se dégager pour être présente. Donc elle m'a chargé de l'excuser. Voilà. J'ai oublié de le faire au départ.
Bon, merci.
Donc la parole à la salle, on a.
On est quatre.
Quatre, mais on a aussi une secrétaire, on a aussi un directeur, on a aussi, mais c'est du temps partiel, hein, puisqu'on fait partie on a un service de l'UDAF. L'UDAF, il y a 108 salariés à l'heure actuelle. Je fais attention parce qu'il y a des administrateurs qui sont là. Mais il y a 108 salariés. Donc, on a un directeur adjoint. Moi, je suis le responsable de ce service-là. Et il y a trois conseillers en insertion, une secrétaire. Ça nous paraît suffisant. Ben, je crois qu'on veut rester un service humain. Je crois que ce n'est pas la peine qu'on soit... Effectivement, il y aurait du travail pour 4 ou 5. Hein. Mais bon, pour l'instant, on a un financement pour 3. Voilà. On apprend à faire avec.
Ah, Monsieur Renaud.
Non, j'ai pas de questions à poser. C'était juste pour apporter une précision. D'abord pour remercier l'UDAF d'avoir accepté, en partenariat avec l'UNAFAM, de créer ces services et de signaler qu'il y a non seulement Espoir 86, mais M. Gentil coiffe aussi beaucoup d'autres services. Donc Espoir 86 influe de 120 personnes par an, en gros. Hein. Mais aussi des maisons relais, 85 places actuellement, plus un projet de 25 à partir de janvier 2010.
20
seulement. Ah, zut alors.
Loudeur.
Et puis deux nouveaux services qui ouvrent actuellement. Le service d'accompagnement à la vie sociale où les accompagnateurs vont aller au domicile des personnes. 15 places autorisées cette année et pour passer à 30 l'année prochaine. Et puis une augmentation qu'on peut espérer par la suite. Et puis enfin les familles gouvernantes. C'est toujours dans le pôle d'insertion de coiffé par M. Gentil, c'est pour ça que je voulais le signaler. Les familles gouvernantes, la première famille est constituée. On se réunit encore demain matin pour mettre ça au point et va ouvrir dans très peu de temps. Enfin, je voulais dire que... Alors, il y a beaucoup de salariés, en fait, parce que vous êtes quatre sur le pôle insertion professionnelle, mais... Vous êtes plus nombreux, en fait, total.
Voilà, c'est important parce que l'auteur Lévy tout à l'heure parlait de la loi 2005, mais il y a aussi des avancées hein, et qui peuvent être, se lire au vu de la composition de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a commencé à 2 en 2004 et on est actuellement 16 dans l'équipe. Donc ça va. Pardon. Il y avait Anne qui était sur la maison relais. Et après, bon, je suis arrivé en novembre et on est 16 actuellement. Et aussi pour dire quand même qu'il y a des choses qui avancent. Moi, je pense au niveau de la MDPH. Pour rebondir sur ce que disait
C'est bien.
Il y a des choses qui vont avancer. Vous allez le voir dans les mois à venir.
On s'y emploiera.
Bonsoir. Donc moi, je suis psychologue au sein de l'équipe mobile de psychiatrie précarité. Et en fait, je me posais la question par rapport à ces personnes finalement donc, qui ont des troubles psychiques et qui sont toujours dans le déni après plusieurs hospitalisations, avec des hospitalisations qui peuvent aussi être, on va dire, des expériences assez traumatisantes pour elles, hein, c'est comme ça qu'elles le décrivent, et qui sont dans une démarche d'insertion, mais finalement un peu irréelle. Comment amener ces personnes jusqu'à Espoir 86 puisque, enfin, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez avoir des personnes qui sont dans le déni finalement. Comment est-ce qu'elles ont pu aller jusqu'à vous?
Elles sont peut-être pas dans le déni total, quoi. Le déni est un déni, on va dire, il y a un degré de déni peut-être moindre hein, que les personnes qui ne sont pas du tout...
Alors, comme tout service financé, on a un cahier des charges qui était précis, mais il n'empêche qu'on accueille aussi un entretien qui, on le sait, n'aboutiront pas tout de suite, mais on peut faire une information en disant à la personne, parce que souvent, les personnes sont dans tel isolement qu'elles ne connaissent pas l'existence d'un service qui éventuellement pourrait les aider. Alors effectivement, on va faire une info en disant, voilà, ben nous, si vous voulez qu'on vous accompagne, il y a telle et telle condition. Okay. Alors, ça va peut-être demander une année, deux années à la personne de maturation, et on va la voir revenir. D'accord ? C'est pas parce qu'on décide que le service va aider que le service va aider. Je crois que ça demande un temps de...
Ouais. Et comment elles arrivent? C'est qu'en fait, nos deux principaux prescripteurs, enfin nos deux prescripteurs officiels sont OPS Cap Emploi et Pôle Emploi. Et les conseillères ANP, enfin les conseillères de Pôle Emploi rencontrent ces personnes-là qui sont complètement dans le déni, qui n'ont pas forcément de reconnaissance et se trouvent très démunies face à leurs demandes. Et comme maintenant, alors sur Châtellerault, sur Loudun, sur Montmorillon, on fait des permanences au sein même de Pôle Emploi, bien souvent elles nous orientent ces personnes. Hein, elle nous oriente ces personnes en disant voilà, moi je ne sais pas trop quoi faire de ce qu'elle me dit, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ne sais pas. Et ce qui fait qu'on voit arriver des personnes, on fait des informations, des premiers accueils avec des personnes qui sont vraiment dans le déni et qui ne sont pas forcément accompagnées, qui n'ont pas forcément de reconnaissance ou qui ont eu, comme vous avez présenté, des hospitalisations un peu sous contrainte ou en tout cas mal vécues. Hein. Et c'est vrai que ce n'est pas des personnes qu'on va accompagner tout de suite parce que finalement, elles ne rentrent pas dans les conditions du service. Mais l'information est importante parce que ça fait partie du cheminement aussi. Hein. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre, à chaque fois, on fait le lien aussi avec le CMP du secteur parce qu'ils sont en général, malgré le fait qu'ils soient dans le déni, ils sont en général connus malgré tout. Et bon, il y a du lien qui se crée et ça permet à la personne d'avancer.
Voilà, on a sur 2008... permis, bien si je me trompe, à 17 personnes, c'est ça, hein, d'être accrochées vers le soin.
Oui, je crois que c'est 17.
C'est ouais. D'accord, des personnes qui n'avaient plus de suivi du tout. Donc la façon dont on travaille, donc une personne qui n'a plus de suivi du tout, c'est que, c'est convenu avec l'hôpital, c'est que effectivement le médecin va attendre bien 6 mois d'observation en fait, hein, pour voir avec la personne. Donc on attend et c'est convenu avec la personne. Je crois que si déjà, alors ce n'est pas forcément des personnes qu'on va accompagner vers l'insertion, mais c'est déjà des personnes vers lesquelles on va raccrocher vers quelque chose. Et se raccrocher vers le soin, c'est quand même déjà pas rien. Et ça a son importance. Quoi. Et après, on pourra les revoir ben, quand la personne sera prête, puisqu'on en est là.
D'accord, merci. Et j'ai juste une deuxième petite question. Alors là, c'est peut-être plus, enfin, pas statistique, mais est-ce que vous avez beaucoup de jeunes dans ces situations-là?
Dans quelle situation?
Ayant des troubles psychiques et qui cherchent à s'insérer socialement.
Quels sont les visages, finalement?
On a observé, parce que tous les ans, on fait un bilan qualitatif, quantitatif, on observe là, que la population rajeunit énormément. On a de plus en plus de jeunes, des parcours de personnes qualifiées, voire hautement qualifiées. D'accord. Au départ, on était sur une population qui était alors deux tiers hommes, une tiers femmes, majoritairement dans la tranche 30-45 ans.
35-45.
Oh non, au départ, c'était ça. Et au départ, on était sur du bac plus 2. On est redescendu sur les deux années précédentes sur du BEP-CAP, beaucoup. Et là, on est en train de remonter sur les niveaux 2, niveau 3, voire niveau 1. D'accord. Et des jeunes.
Oui, on a des jeunes. Cette année, on a eu pas mal de demandes de jeunes. Et on a renforcé notre travail aussi avec les missions locales. Voilà, que ce soit sur Châtellerault ou Poitiers. Ou, voilà.
Alors après, docteur Lévy sera à même d'expliquer pourquoi on a plus de jeunes que les autres années.
Oh là là, je ne me lancerai peut-être pas dans une explication trop fumeuse. Mais c'est vrai que nous, dans les centres médico-psychologiques, on constate aussi un rajeunissement évident de la population qui vient nous rencontrer. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'ex-étudiants, beaucoup de personnes jeunes en souffrance profonde. Donc il y a un rajeunissement très, très net hein, donc, qu'on n'explique pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que les gens viennent plus facilement comme nous consulter. Voilà, donc on a cette, quand même. Alors aussi, bon, des personnes qui sont envoyées, bon, par, aussi par Pôle emploi, les CCAS, les missions locales, les, enfin vous. Donc on a des, vraiment de plus en plus de personnes jeunes et qui sont adressées par les partenaires. On n'a pas que du suivi de personnes qui sortent de l'hôpital. Ça, c'est une petite partie de notre travail, ça.
Moi, je voudrais poursuivre dans la réponse à la première question. C'est déni, pas déni. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est pas binaire et c'est pas la case. Il faut que je me range de là. La case n'est pas cochée, je ne suis plus dans le déni. Il y a une expression très fréquente, par exemple, qu'utilise mon fils, c'est ma soi-disant schizophrénie. Donc, c'est aussi, je ne suis pas handicapé, mais j'ai bien le droit de mettre ma chaîne à 2h du mat, compte tenu de mon passé psychiatrique. Donc, c'est pas on-off. Hein, c'est... Donc, ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est, quand vous évoquiez tout à l'heure, l'incapacité à faire des choses simples, c'est pas forcément exclusif de la capacité à faire des choses complexes. Ça aussi, ça déroute beaucoup les gens non avertis. Je te programme un site web les doigts dans le nez et je peux pas sortir ma poubelle. C'est tout à fait compatible.
Oui, tout à fait. Il y a des champs qui vont être étonnamment extrêmement... enfin, où les gens vont être très pointus. Bon, l'informatique aussi, ça peut être un domaine où justement on peut avoir des capacités assez surprenantes. Et puis après, bon, en effet, mettre son linge au sale, bon, faire son ménage, enfin bon, aller... voilà, ça, c'est, ça peut être enfin, quelque chose d'insurmontable.
Ça peut être aussi une simple, enfin, simplement, il y a eu beaucoup de... il faut être pragmatique aussi quand on accompagne ce public-là, c'est quand on dit à la personne, il faut aller vous inscrire à la NPE. Sauf que la personne, elle est incapable de sortir de chez elle, de prendre le bus, de savoir qu'il faut prendre le bus, de savoir qu'il faut aussi ouvrir sa boîte aux lettres de temps en temps pour lever le courrier, l'ouvrir. Donc effectivement, notre travail, ça va être de dire à la personne, bon, bah, il faut vous lever à telle heure, il faut prendre le bus telle ligne, il faut arriver à l'agence, demander ça, faire ça, et après rentrer. Voilà, c'est aussi tout ça. Voilà. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas envie de le faire, la personne, hein, c'est que la personne ne peut pas ou ne sait plus.
Ou parce qu'il y a des obstacles dans la boîte aux lettres, des obstacles potentiels. Il y a un courrier qui risque d'arriver, qui est extrêmement emmerdant, angoissant, qui va compliquer la vie. Donc ce courrier qui risque d'arriver, pour ne pas le voir, on n'ouvre pas la boîte aux lettres. Donc,
Merci. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, l'accompagnement, est-ce qu'il a une durée limitée? Est-ce que vous êtes toujours dans l'accompagnement ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous dites... il n'y a plus rien à faire ou je sais pas.
Alors,
c'est pas le bon terme.
Non, mais
bon,
ça.
C'est on dit jamais ça.
Alors, là encore, on avait remarqué au niveau du service que les parcours étaient de 13 mois, à peu près 13-14 mois. D'accord. On a actuellement un financement pour 6 mois renouvelables, une fois mois par mois. D'accord. Donc
juste
au global, ça fait un an, quoi. Hein, mais si... Si le parcours va au-delà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose hein, qui est peut-être là du coup de l'ordre du déni. On a peut-être raté quelque chose à travailler. Hein. Le tout, c'est d'amener la personne à avoir un projet, que ce projet soit viable, donc à l'issue, elle puisse trouver un emploi.
Voilà. Donc c'est vrai que l'accompagnement est limité dans le temps, hein, de par notre cadre de travail et de par notre financement. Malgré tout, on reste quand même un service ouvert hein, et qu'il y a des parcours qui ne sont pas tout à fait finis, qu'on continue. Et il y a une certaine latitude dans le sens où on a plusieurs financeurs, donc il y a certaines personnes où on sent qu'il y a des freins qui sont importants, où on va d'abord les accompagner sur un plan social sans les entrer sur de l'insertion professionnelle à proprement dit, et ensuite on va basculer sur l'accompagnement qui est limité à 6 mois renouvelable mois par mois jusqu'à un an. Voilà, on essaye d'ajuster finalement notre cadre de travail à la situation de chaque personne en fait hein.
C'est dans ce cadre-là que le Conseil général nous finance, puisqu'il finance des actions d'accompagnement social à visée d'insertion professionnelle. Donc c'est ce dont vous parlez, ma collègue. Et qui peuvent être d'une durée de 6 mois, non, s'il faut, en attendant qu'on ait pu lever tous ces freins, et après on va basculer sur l'accompagnement professionnel, à proprement dit.
Et le contrat d'accompagnement, on a la possibilité de suspendre à un moment donné, si on, parce qu'en effet, on est avec des parcours qui sont un peu fluctuants et on peut suspendre pendant un mois ou deux parce que le soin va devenir plus prépondérant et on va reprendre le parcours après. Ça, il n'y a vraiment aucun souci avec ça.
Alors, ce qui est important aussi, vous le disiez au début, vous le disiez, donc on se situe dans un milieu ordinaire.
Ouais.
Alors c'est vrai qu'à un moment, il peut y avoir justement au bout de ces mois d'accompagnement une évidence qu'il faudra peut-être s'orienter plutôt peut-être vers un milieu protégé. Hein. Et donc là, c'est vrai que bon, y a, vous avez un rôle important à jouer aussi, et d'articulation, je pense. Hein, et...
Alors sur la quantité de personnes qu'on accueille tous les ans, on a à peu près 4-5 personnes pour qui on va faire une préconisation en milieu protégé. Alors ce travail-là, ça demande un cheminement de la personne, parce que c'est pas simple, mais ce qu'on essaie de mettre en avant aussi, c'est que aller en ESAT par exemple, c'est aller au travail, puisque l'ESAT c'est avant tout une entreprise qui met à votre disposition du travail, et c'est, vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé quand vous travaillez en ESAT, d'accord ? Donc nous, on va au terme de l'accompagnement et de parcours que vous aurez chez nous, c'est-à-dire les immersions d'entreprise, tout ça, ça va vous faire avancer. Hein, et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être se dire, peut-être que finalement, un milieu protégé vous conviendrait mieux, enfin, vous serait plus sécurisant pour vous. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est travaillé aussi avec l'hôpital, par le biais des stages.
Tout à fait, les stages qui peuvent être faits. Voilà. C'est des étapes délicates, mais bon, qui sont importantes, hein, et parfois un peu plus longues, hein, mais... En effet, on a nous aussi chaque année quelques personnes qui sont admises en ESAT après avoir eu des parcours chez vous, ou par des essais d'intérim ou de travail seul, etc. Et donc, bon, ça peut être tout à fait bénéfique. Hein, le fait d'être vraiment un travailleur, il y a un impact en général très positif sur les symptômes, sur la pathologie.
Voilà, ce que j'ai envie de rajouter aussi, ce qui est en lien avec la durée de l'accompagnement, c'est qu'on est quand même un service, on est sur de libre adhésion. D'accord ? On ne va pas forcer la personne à faire les choses, même si on a une préconisation NPE. La personne, elle peut faire ce qu'on lui dit, ce qu'on lui conseille, hein, puisqu'on est là pour faire des conseils et des préconisations. Mais après, la personne est libre.
Il y a des gens qui sont très libres, d'ailleurs, qui font beaucoup de choses, vous ne savez pas. Alors, ils nous apprennent des choses extraordinaires. J'ai fait ci, j'ai fait... Je me rappelle d'une personne qui arrivait à trouver des tas d'emplois, enfin, des tas d'intérim extraordinaires. Je dis, c'est bien, vous êtes bien accompagné par Espoir 86 et tout. Il me dit non, c'est moi tout seul, je ne l'aurais pas dit. Voilà, donc il y a des personnes qui viennent, etc., mais en effet, qui après arrivent autre chose. Ouais. Mais bon, c'est bien d'ailleurs.
Mais c'est à respecter.
Hein, tout à fait. Hein, mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est bien des fois nous qu'on se parle un peu, parce qu'on ne sait plus trop des fois de quoi il s'agit.
Quand je parlais des préconisations, ça nous arrivait, je pense, à une personne, on avait. Qui souhaitait travailler dans un certain secteur que je n'aimerais pas, mais qui était quand même assez stressogène, et on lui avait fortement déconseillé. Et cette personne, sans rien nous dire, avait voulu trouver dans ce secteur-là. Elle avait trouvé. Elle avait fait son expérience, qui ne s'est pas forcément bien terminée, mais elle avait été le vérifier. Hein, parce que ce qu'on lui avait dit, ça tenait la route, finalement. Bon, elle a réussi à rebondir après, mais voilà. Il y a des personnes qui ont besoin aussi d'aller vérifier que ce qu'on dit, c'est pas à côté, c'est pas pour les empêcher de... Franchement, quand on dit quelque chose, c'est pas pour censurer, c'est pas pour... Mais c'est au contraire pour être dans la bientraitance aussi.
C'est vrai qu'il y a des domaines en particulier où il y a quand même des demandes, mais qui sont très éprouvants, je trouve, pour les malades psychiques. C'est le domaine de la restauration, les services... voilà, donc restauration, bar, service téléphonique. Là, c'est... Alors, ça, combien de patients essayent d'être en service téléphonique, ça c'est épouvantable. Hein. Ça, c'est vraiment, déjà, quand moi j'ai beaucoup de patients qui sont dans ces services-là, qui travaillent et qui vont mal, donc c'est vrai que je ne... parce qu'il y a quand même beaucoup de stress. Hein,
C'est vrai qu'il y a des secteurs en général qui ont des conseils, mais après, bon, c'est propre à chacun.
Voilà. Il y a cette liberté quand même qui doit être respectée, hein, ça, je crois qu'il faut le dire.
Justement, je voulais savoir comment vous arrivez à sensibiliser les entreprises et justement leur amener à rencontrer la personne, les rassurer aussi.
Alors, ça c'est important.
C'est des militants, les employeurs.
Non.
Souvent, on a une mauvaise image des entreprises, mais ce n'est pas du tout le cas, des fois.
Dites-nous.
Mais je crois que c'est important, parce que souvent, dès le premier entretien qu'on a avec les personnes, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous allez dire à l'entreprise de ma maladie ? Comment vous allez en parler ? Comment vous allez l'aborder ? Et est-ce que je vais être stigmatisé ? Est-ce que... Voilà. On a un positionnement par rapport au service ou en entreprise, on va simplement, et on le dit à la personne, on va simplement parler des compétences professionnelles. Hein. Alors l'expérience fait, ça fait un petit moment dans l'insertion professionnelle, où alors c'est pas mesquin, mais j'en dis pas trop. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est une rencontre aussi, l'insertion d'entreprise, c'est que l'entreprise, il faut qu'elle se rende compte par elle-même. Hein, si on en dit trop, on va inquiéter l'entreprise, et je crois qu'avant tout, on va dire, voilà, effectivement, on a un service d'insertion pour les personnes en situation de handicap psychique, voilà. Donc on a un gros travail d'information à faire par rapport à ça, mais qui va se faire au fur et à mesure que la personne est dans l'entreprise. Hein. Jusque-là, quand même, alors on a des entreprises qui nous disent non, c'est clair. Quand on fait on prend l'annuaire, hein, qu'on fait les entreprises, quand on fait du démarchage, je préfère une entreprise qui me dise non carrément, plutôt qu'une entreprise qui me dise oui, peut-être, qui prend, et on voit casse-pipe. Donc je préfère l'entreprise qui est honnête et qui me dise non. Après, bon, on a un panel d'entreprises avec lesquelles on travaille, mais on est tellement sur... alors, les petites entreprises, on travaille bien avec, mais je crois que c'est tous les collègues de l'insertion travaillent bien avec les petites entreprises. Tout ce qui est échelle... Et par rapport aux personnes qu'on accompagne, une entreprise qui est à échelle humaine est plus sécurisante. Hein. Voilà. Le travail qu'on va renforcer avec l'entreprise et les actions qu'on va mettre en place aussi. Bon, on a un livret, voilà. Ça aussi qui est intéressant, ce petit livret. Je trouve que c'est un bon outil pour faire de la sensibilisation.
C'est un très bon livret.
Là, qui est en ligne sur le site de
l'INAFAM. Qui est en ligne, oui, sur le site de l'INAFAM.
C'est un très bon outil pour les entreprises. Souvent, alors il y a ce qu'avait pointé le docteur Lévy tout à l'heure, c'est l'amalgame entre le handicap mental et la maladie mentale, et l'handicap psychique. Donc là, effectivement, il faut mettre une couche. Souvent on ne pense pas que la personne est efficiente en situation de handicap psychique, alors souvent la personne a toute son efficience. Hein. Il y a, par contre, on va aborder effectivement les ralentissements au poste de travail, par exemple. Il y a tout ça. On peut parler de d'aide éventuellement sur le poste de travail. Ça va être propre à l'entreprise aussi et l'acceptation de... On le sent si une entreprise va...
Puis c'est être à l'écoute des questions de l'entreprise. Je pense que c'est comme quand on démarche pour des personnes en situation de handicap physique. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins ouvertes. Et puis celles qui sont ouvertes, il faut surtout rester à l'écoute des questionnements qu'ils ont. Et puis pas devancer, parce que parfois, comme dit Patrick, il ne faut pas en dire trop, parce que parfois on va leur mettre un doute ou une inquiétude qu'ils n'avaient pas du tout au départ. Donc il faut surtout rester à l'écoute de ce qu'ils souhaitent. Voilà.
Alors concernant le handicap, nous on dit à la personne qu'on accompagne qu'on ne dit rien, hein, on parle de compétences professionnelles, ceci dit la personne est libre d'en parler, comme elle est libre de parler de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, comme après l'entreprise peut, si elle veut, avoir plus d'informations, mais ça passe par le médecin du travail. Hein, nous on se retire de ça, on n'a pas... voilà. Donc on est assez clair, les entretiens qu'on fait avec l'entreprise, la personne est présente. Hein, quand une personne est insérée ou elle est en évaluation au milieu de travail, en stage, en entreprise par exemple, on a un outil propre qui nous permet d'évaluer un peu l'adaptation au poste de travail, l'insertion dans l'équipe, les difficultés rencontrées, justement ces phases où la personne est fatiguée, là où elle est le plus opérationnelle, parce que la personne se connaît bien, on a des personnes qui vont être très opérationnelles le matin et en fin d'après-midi, restent après à trouver le poste, ça nous arrive. Des fois, c'est plus difficile. Mais on essaie de rester à l'écoute au maximum de l'entreprise, puisqu'une fois que la personne y est, on fait un point tous les 15 jours au départ, après tous les mois, et puis on relâche. Alors, il y a des entreprises qui nous demandent de venir plus souvent, d'autres qui nous disent non, c'est bon, tous les mois et demi. À partir du moment où l'entreprise sait qu'elle peut nous contacter dès qu'il y a un souci. Hein, il y a des entreprises qui nous appellent dès qu'il y a une personne qui est absente une fois. Donc on peut intervenir. On essaie d'être réactif dans la journée ou dans les 24 heures, quoi. Hein. Quand on peut. Mais voilà, l'entreprise est rassurée. Notre but, ce n'est pas de placer et puis de laisser l'entreprise se débrouiller toute seule. Il faut que l'entreprise sache qu'on peut intervenir. D'accord ? Ça m'est arrivé aussi d'aller, alors c'est exceptionnel hein, ce que je pointe, mais d'aller dans une entreprise avec un infirmier. Parce que l'entreprise craignait par rapport à l'utilisation d'une machine au vu du traitement. Donc l'infirmier a pu se rendre compte et rassurer l'entreprise en disant voilà, la prise de traitement n'empêche pas la personne de servir de cette machine. Il y a cette collaboration-là aussi qui est importante. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Et vous n'avez pas trop de difficultés à trouver des entreprises pour l'instant ?
En ce moment ?
En ce moment, c'est la question qui fâche.
Si. Mais on a depuis septembre.
Non, on va, depuis vraiment, vraiment la difficulté, même pour un stage, c'est depuis janvier. Hein. Ouais. Il y a des entreprises, même pour des stages en ce moment, qui ne reçoivent plus parce qu'ils ont manque d'activité. Et puis déjà, en fin d'année, on avait senti un sérieux ralentissement dans les propositions d'offres et dans les possibilités de placement à la suite des stages, etc. Mais ça, je crois que ce n'est pas propre à notre service, ce n'est pas lié au handicap. Hein, ouais, voilà.
Ce qui nous offre aussi plus de temps justement pour travailler sur un projet qui sera vraiment bien adapté. Je crois que ça c'est important. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est on a fait un choix aussi au niveau du service par rapport au CV. Hein. Souvent les personnes arrivent avec 5 ou 6 CV qui ont été... alors c'est un peu en vrac ce que je vous dis, mais c'est important d'en parler aussi. Des CV qui ont été ciblés. C'est vrai qu'il y a eu la grande époque des CV ciblés. Et la difficulté que le public qu'on accompagne a, c'est de se repérer dans ce parcours-là. Puisque même s'il y a eu des phases d'hospitalisation, même s'il y a eu des choses, c'est le parcours propre de la personne. Donc on part du principe au service qu'on note tout dans le CV. Expérience, enfin toutes les expériences qu'il peut y avoir. Hein, parce que souvent, la grande difficulté, c'est de se repérer dans ce parcours-là. Et pour optimiser l'entretien d'embauche ou l'entretien de demande de stage, ce qui est important, c'est que la personne arrive à se repérer dans son parcours. Hein. On apprend aussi, donc on va tout noter, tout ce qui s'est passé, on apprend aussi à la personne à trouver une réponse par rapport à une question déstabilisante qui peut être qu'est-ce que vous avez fait pendant les 6 mois là, et que cette période peut correspondre à une phase d'hospitalisation. Donc on va apprendre à la personne à trouver sa réponse. On n'a pas de réponse clé en main, mais on peut amener la personne à trouver la réponse dont elle va qu'elle va s'approprier, avec laquelle elle sera à l'aise. D'accord ? Alors certains vont être, j'ai eu des problèmes de santé, maintenant je suis en situation de pouvoir travailler, pour ça que je reviens. D'autres, ça va être... Enfin voilà, il y a plein de réponses possibles. Hein. Mais avant tout, pour le travail qu'on a sur la préparation d'entretien d'embauche, c'est le CV qui va nous permettre d'aider. On va corriger effectivement les attitudes aussi, mais tout ça pour optimiser encore et rassurer la personne. Donc on fait de l'entraînement aussi à ce niveau-là. Voilà, c'était le parti CV qui est important à rappeler.
Oui, quand ça concerne des jeunes qui n'ont été qu'étudiants, qui ont été malades, donc bien sûr l'intégration professionnelle est difficile. Ça nécessite a priori une reprise de formation. Cette formation ne peut pas forcément être prise aussi comme une formation normale, avec un rythme normal. Est-ce qu'il y a des exemples de formations adaptées qui permettent aux jeunes de se réinsérer plus facilement?
Alors, on travaille... Je commence, tu finiras. Alors, on peut travailler avec des centres spécialisés, qui sont les CRP, les centres de réadaptation professionnelle, les écoles de reclassement professionnel. Mais la difficulté, c'est qu'on est sur du temps plein, et la difficulté, c'est qu'on n'en a pas sur la région. D'accord ? Donc, c'est changer de département, déménager, enfin rompre avec le réseau qu'on a sur place, et souvent, ça peut être difficile. D'accord ? Après, c'est vrai qu'on se dit, on accompagne un public qui va sur un emploi à temps partiel, souvent, hein, pour commencer, et que les formations, c'est toujours du temps complet. Hein ? Donc, on a fait remonter des besoins au niveau de la région, pour des formations à temps partiel, il y a des choses qui ont été entendues. Mais après, il y a des formations, on a des formations à temps plein où la personne se sent bien, hein, que ce soit des formations avec l'AFPA, que ce soit des formations plus ou moins longues.
Mais c'est vrai que des formations qualifiantes, actuellement, il n'y a pas des formations qualifiantes sur mesure avec du temps partiel. Alors, ça, c'est vrai que ça peut être un frein. Par contre, ce qui existe et ce qui a été entendu, c'est sur des formations préqualifiantes ou des actions de remobilisation, où les centres de formation sont maintenant beaucoup plus sur du temps partiel quand ça s'adresse à des personnes travailleurs handicapées. Hein. Mais sur les formations qualifiantes, c'est vrai que c'est beaucoup de temps plein.
Le temps partiel, c'est très important.
Ouais.
Autour de la fatigabilité, justement, on a certaines difficultés de se concentrer plus qu'un certain nombre d'heures. Enfin, et c'est vrai que bon, c'est bien hein, que ces formules-là puissent se développer.
Ouais. Donc sur de la préqualification, de la remobilisation, maintenant ça existe de plus en plus. Ouais.
Parce que c'est vrai que pour un jeune quand même, c'est à cette époque-là, c'est quand ils sont jeunes, on peut encore avoir un petit peu plus d'espoir. De se réinsérer, parce que après c'est la spirale quoi, et puis on s'en sort pas, et puis ça peut être une difficulté quand même.
Mais j'ai envie de dire, la formation n'est pas forcément que pour les jeunes, oui. En fait, hein, et qu'on a aussi des personnes qui ont une quarantaine d'années, trentaine d'années, qui retournent vers la formation. Et parfois, au contraire, des jeunes qui ont eu un cursus scolaire un peu sans faille. Hein. Nous, on voit des personnes qui ont bac plus 5, des personnes qui sortent d'école d'ingénieur. Et du coup, ils sont jeunes, hein, ils ont 27, 28 ans. Quand on leur parle de formation, ils n'en ont plus du tout envie. Parce que ça a été un moment donné, en effet, où ils étaient bien, où ils ont réussi à faire ça et se rendre compte qu'au niveau de leur capacité de mémorisation, au niveau cognitif, il y a des choses où ils ont plus de mal et que du coup, refaire une formation à un niveau moindre, c'est pas forcément facile à accepter et quelque part partir sur plus de pratiques. Sur plus un parcours de stage, c'est parfois plus acceptable pour eux, en fait. Hein. La formation n'est pas forcément liée à l'âge, j'ai envie de dire.
C'est vrai que dans ces cas-là, de personnes qui ont un certain niveau d'études, les formations qu'on peut proposer peuvent être à la limite presque disqualifiantes, oui. Voilà, aux yeux ça. De ce qu'ils avaient fait avant, et bon, d'un deuil non fait, hein, d'un certain... un métier qu'ils ne pourront plus faire. Enfin, donc c'est vrai que peut-être en effet que plutôt le côté entreprise paraîtrait peut-être mieux.
Hein, des mises en situation, des choses comme ça, c'est sont mieux vécues et même sur des postes à qualification moindre par rapport à leur niveau d'études, mais c'est mieux vécu que de repartir en formation.
Oui, j'avais envie de faire une petite remarque sur tout ce que j'entends depuis tout à l'heure parce que je suis une vieille professionnelle. Il y a eu une époque où il y avait, pour s'occuper en tout et pour tout dans la Vienne, des personnes handicapées, un monsieur à la NPE. Sachant que ce monsieur avait la charge des personnes handicapées psychiques et des personnes handicapées... Et il était seul sur la NPE de Poitiers. Et quand on voit tout ce qui se fait depuis... Alors, c'est vrai que, on peut faire 15 fois mieux, mais c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et bon, je dis que je suis vieille, mais enfin, je parle de quelque chose qui a 20 ans. Hein. Voilà.
Comme dit la chanson.
Oui. C'est quand même une remarque que j'avais envie de faire depuis tout à l'heure, parce que on n'est plus dans le même monde. Hein. Vraiment. Voilà.
C'est important comme remarque.
Ah ça me
ça permet
ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure.
Au plus jeune de témoigner, c'est bien, c'est bien.
Alors, je suis parent et je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut dire que maintenant ça se passe mieux, que ça se passe bien? Sur le plan financier pour les intéressés, c'est-à-dire la question du relais, du passage de l'indemnité à laquelle ils sont habitués à un salaire. Est-ce que ça se passe bien?
L'indemnité, vous parlez de l'allocation d'adulte handicapé, c'est ça?
Oui.
Il y a des choses qui ont évolué. Alors, on espère tous que l'AH soit réévaluée. C'est dans des projets quand même. L'avantage, c'est que ce qui a été entendu avec la loi 2005, c'est qu'une personne qui bénéficie de l'AH, cette personne peut travailler à temps partiel. D'accord ? C'est une avancée. Alors, en gros, elle peut travailler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est je retourne vers mes collègues d'OPS Cap Emploi aussi qui font leurs calculs dans ce sens-là. Mais une personne qui perçoit l'AH peut travailler jusqu'à hauteur d'un mi-temps. Sinon, elle perd l'AH, apparaît comme une allocation différentielle au même titre qu'une pension d'invalidité. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, l'AH n'intervient plus comme uniquement en revenu de substitution. D'accord ? Donc, il y a des évolutions. Il y a encore des choses à mettre en place. Mais ça avance un peu. Hein. Ce qu'on espère tous, c'est que, effectivement, vivre avec une AH actuellement, c'est difficile. On essaie de mettre en œuvre. On essaie d'apporter des réponses en termes de logement. Monsieur Renaud parlait des maisons relais. Quelqu'un qui a l'âge effectivement peut disposer d'un logement, mais il y a encore des avancées à faire, effectivement. Après, si la personne effectivement travaille au-delà de mi-temps, elle va perdre son âge.
Mais il y a la possibilité d'un cumul pendant un certain nombre de mois en fonction de la période à laquelle elle commence le travail, parce qu'en fait, la CAF calcule le montant de l'âge au mois de janvier. Donc, il y a des personnes qui ont cumulé sur plusieurs mois leur salaire plus l'âge complète. Et puis après, ça intervient comme une allocation différentielle l'année qui suit.
Voilà, il y a aussi, on parlait de la MDPH tout à l'heure, il y a aussi des statuts provisoires qui peuvent être donnés à des personnes dans le but d'essayer une insertion professionnelle. Ça aussi, c'est important. Ça n'existait pas forcément avant, hein, ou de manière plus ou moins officielle. Voilà, on avance.
Ah, oui, c'est la question au sujet des jeunes. Effectivement, on a une lacune dans tous les dispositifs qui se mettent progressivement en place. Il nous manque toujours quelque chose qui est demandé depuis très longtemps, qui a été retenu dans le SROSS, c'est le centre de post-cure et de réhabilitation sociale et professionnelle. Pour les jeunes malades, après une première ou une seconde hospitalisation, une fois qu'ils sont stabilisés, ce serait effectivement une aide formidable pour aider à l'orientation et à leur réinsertion sociale et professionnelle. Et à la sortie de tels centres, certains vont vers le milieu ordinaire ou sont en mesure d'aller vers le milieu ordinaire, d'autant plus qu'avec l'existence d'un service comme Espoir 86, leur insertion pourrait être facilitée à leur retour. D'autres sont orientés directement sur un emploi protégé ou même en dehors de l'emploi, c'est-à-dire parce que certains ne pourront pas travailler. Il y a toujours un projet et on doit faire une visite à Rennes, un centre de réadaptation prochainement. Ça a été proposé aujourd'hui. Alors peut-être qu'on finira par y arriver. C'est un régime hospitalier au point de vue.
Oui.
Les pensionnaires paient
le forfait journalier. C'est ce qui pose justement un peu de problème, c'est que ça soit accepté par le SROSS.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qu'il faut poser ou est-ce que...
Madame, on avait une.
Je voulais poser le problème du logement parce que quand on travaille...
Dans le micro, madame.
Quand on n'a pas un emploi à temps incomplet, on n'a pas droit à un logement. Alors, comment faire? Bon, en tant que parent, ben... C'est bon, moi, mon fils a 35 ans, je l'accueille à la maison, ça fait 6 mois, je me dis si ça dure un certain temps, bon, ça va bien, mais ça ne peut pas être indéfiniment, quoi. C'est un problème, ce logement.
Là c'est moi qui réponds.
Oui, peut-être.
Donc, on l'a fait hier, mais il faut le refaire à chaque fois, c'est indispensable. Il y a 6 points. Hein, donc, un, les soins, on en a parlé un peu longuement, mais on n'a même pas exploré tout le champ des soins, les différents types, etc. etc. Deux, les ressources, on l'a un peu évoqué. Trois, le toit, effectivement. Et quatre, l'accompagnement social pour pouvoir rester sous le toit dans des conditions satisfaisantes. Et puis après, les questions de protection juridique et d'activité. Le toit, il faut éventuellement passer par une case de toit adapté, mais tout ça, ça se construit brique à brique. C'est-à-dire que le toit adapté, ça peut être la maison relais, ça peut être le foyer de vie, ça peut être l'appartement thérapeutique. Et dans la Vienne, on a quelques unités. Le secrétaire général de la préfecture trouve qu'on est très bien placé en matière de maison relais par rapport à d'autres départements qui sont moins riches. Par rapport aux besoins qu'on évalue dans l'absolu, on est à peu près au quart de ce dont on aurait besoin. Donc effectivement, enfin, tout ça est à coût. Une maison relais, c'est un ensemble d'une vingtaine de logements. Mais alors là, c'est peut-être à monsieur Gentil de répondre.
Alors, une maison relais,
donc
c'est...
Vous posez finalement la question d'une personne donc, qui a un trouble psychique, ouais. qui a donc des revenus autour d'une allocation handicapée, qui a un RMI, qui a... Le RMI, d'accord. D'accord, allez-y, monsieur Gentil.
Oui, j'y vais. je vais exécuter. Alors, une maison relais, c'est une des particularités. Alors, c'est vrai que monsieur Peter le dit, on est dans les 10 départements, les 10 premiers départements... Pardon ? On est le second département en France en termes de places maison relais. On a beaucoup à faire encore. Alors la maison relais, c'est le seul service qui propose un habitat durable, d'accord, en semi-collectif. Donc effectivement, ça a été pointé tout à l'heure, donc on gère 4 maisons relais sur le département, bientôt peut-être une 5e. Donc on en gère une sur Châtellerault, Poitiers, Pressac et Montmorillon qui viennent d'ouvrir. Le principe, c'est un logement social, hein, avec un APL conventionné par la direction départementale de l'équipement, Financement DAS, d'accord, État, donc 16 euros par jour et par personne accueillie, ce qui est quand même un minime, en fait. Et donc la façon dont on travaille sur les maisons relais tout au moins de l'UDAF, donc on a, je vais partir du principe de la résidence de Saint-Éloi qui a ouvert en septembre, donc 20 studios de 30 mètres carrés en autonomie. La personne est locataire de son appartement, enfin sous-locataire plus ou moins de l'UDAF, avec un titre d'occupation, soumise avec un règlement intérieur forcément puisqu'on est sur du semi-collectif. Et puis, il y a en maison relais des espaces communs, des espaces conviviaux qui sont animés par des accompagnateurs qui sont là du lundi au vendredi, de 9h à 18h. D'accord ? Donc, on a deux accompagnateurs sur Poitiers, deux accompagnateurs sur Pressac, deux accompagnatrices sur Châtellerault et une accompagnatrice sur Montmorillon, pour l'instant, puisqu'on vient juste d'ouvrir. Le travail qui est proposé à la personne, donc là aussi, alors là on est sans orientation MDPH, sans rien, c'est de la libre adhésion de la personne sur souvent quand même orientation de l'hôpital, des parents aussi, hein, puisqu'on a eu pas mal d'orientation de l'UNAFAM à un moment donné.
Des parents.
Parce qu'on travaille avec les parents, hein, ça c'est indispensable. Donc notre travail c'est d'offrir d'abord le logement durable, puisqu'on a affaire à des personnes qui souvent ont été soit dans l'expulsion, soit se sont retrouvés en CHRS, soit se sont retrouvés en errance, soit se sont retrouvés sans logement du tout, soit des personnes qui étaient dans les familles. Notre travail, ça va être de recevoir ces personnes. On reçoit toutes les demandes, hein, comme pour Espoir. On reçoit toutes les demandes là. Et on va essayer de voir si les services proposés par la maison relais vont pouvoir répondre aux besoins de la personne. Notre travail, c'est ça. Hein. Donc voir si déjà on a de la place en maison relais, parce qu'on est un peu victime du fonctionnement. Sur Poitiers, honnêtement, on pourrait monter une deuxième maison relais très facilement, alors qu'il y a déjà quand même quatre maisons relais sur Poitiers, hein, dont trois autres qui sont gérées par d'autres associations. Donc on va travailler là-dessus. On va avoir une action d'abord sur le logement. Hein, au travers. Alors on accueille des personnes qui sont bénéficiaires de l'AAH, du pension de validité, certains qui travaillent, de façon très marginale, hein, puisque ce n'est pas le public. Le public étant défini par la circulaire, mais je vous le dis parce que c'est quand même important, de décembre 2002, sur des personnes seules, isolées, en difficulté psychologique, voire psychiatrique. Alors comme c'est des projets qui ont été montés sur la Vienne avec une collaboration étroite avec l'UNAFAM, on accueille pour beaucoup des personnes en situation de handicap psychique, hein, sur le département de la Vienne. Donc voilà, on va avoir une action sur le logement donc en premier, avec un travail autour de l'hygiène du logement, l'hygiène aussi vestimentaire de la personne, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, enfin tout ce travail-là, avec l'utilisation de tout ce qui peut exister en termes d'aide ménagère, en termes d'intervention. On a une socio-esthéticienne, par exemple, qui intervient sur toutes les maisons relais, hein, qui va apprendre à la personne à prendre soin d'elle, à travailler sur l'image de la personne, ça aussi son importance. Donc un travail toujours en lien avec l'hôpital. Et puis quand la personne se sentira prête, on va faire un travail sur l'insertion sur la vie de quartier, d'accord, qui va passer sur, je sais pas, l'inscription dans une activité sportive, un travail avec les GEM, un travail avec l'hôpital de jour. Enfin bon, il y a tout ce travail-là qui va être en place. Alors on a des outils sur le sein même des maisons relais. Ça peut paraître tout bête, mais on a un abonnement à un journal qui est prétexte à se rencontrer le matin autour d'un café et pouvoir dépiauter un peu les actualités. Mais tout ça pour être convivial. On a, les animatrices proposent deux repas par semaine où la personne vient, va faire les courses, parce que c'est ça aussi, c'est le réapprentissage de servir du bus, aller vers les autres, être capable de faire preuve d'autonomie en faisant ses achats seul. Enfin, voilà. Et on essaie de favoriser tout ce qui va être alors un respect de l'individualité, forcément. Si la personne veut se retrouver seule, elle peut se retrouver seule dans son logement, mais à la fois, elle peut partager des moments plus conviviaux. Alors, je parlais du J'aime l'accorder, mais on travaille aussi avec le fil d'Ariane, hein, qui est là. Voilà, il y a tout ce travail-là.
Et alors ça, c'est le logement qui s'adapte, mais il y a aussi le logement banal, standard, oui, en ville.
Alors, on a, voilà,
où on peut contribuer à adapter la personne au fait de vivre dans son logement en ville.
Voilà, on peut.
Et je vous passe la parole pour continuer.
Voilà, j'ai bien entendu. On peut parler, alors sur les maisons relais, on a ces systèmes de résidence, hein, de 20 logements, mais on a aussi 5 appartements satellites qui peuvent être envisagés comme une progression, on va dire, dans le logement maison relais. On a 5 appartements La particularité, je reviens dessus parce que ça a son importance, en maison relais, on peut y rentrer à 26 ans et y rester toute sa vie si on s'y sent bien. D'accord ? C'est vraiment la particularité de ces services-là. Alors, pour suivre l'idée de M. Pétard, on vient d'ouvrir récemment un nouveau service, qui est un service d'accompagnement à la vie sociale, qui va être l'échelon au-dessus de la maison relais, par exemple, et qui va accompagner des personnes qui vont être salariées, qui vont être bénéficiaires de l'AAH, qui vont être dans un logement autonome, mais qui vont avoir besoin d'une aide ponctuelle. Alors là, c'est une notification MDPH pour un travail sur la gestion administrative, sur un travail sur l'accompagnement aux soins, sur un travail sur l'accompagnement aux loisirs, l'organisation de vacances, enfin, des choses ponctuelles comme ça. Hein, des orientations qui sont données pour 1, 2, 3 ou 5 ans.
Mais voilà. c'est là qu'il y a une grosse carence, c'est que pour qu'il y ait orientation MDPH, il faut qu'il y ait saisine par quelqu'un. Voilà. Il faut donc que quelqu'un sache que le SAVS, ça existe, sache que c'est bon et qu'il faut l'utiliser.
Que c'est bon, j'espère.
Et que ça suce si on ne s'en sert pas. Ouais. Et c'est là que je renvoie un petit reproche au centre hospitalier Henri Laborie qui prescrit assez peu de SAVS auprès de la MDPH.
Bah, on a quand même suffisamment comme prescrit.
Parce qu'il y avait très peu de demandes. C'est ce qu'on dit, moi, en tant qu'administrateur de la MDPH.
Alors, c'est vrai que les rencontres qui ont eu lieu donc, avec la MDPH étaient un peu à double discours, parce qu'en même temps, on nous disait que le service n'existait pas. Et après, on disait de toute façon, ça ne sert à rien qu'il existe puisqu'il n'y a pas de demande. Bon. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc à partir du moment où nous, on nous a bien informés, on a commencé à faire des demandes. Mais nous, on attendait que la structure existe totalement et soit complètement validée pour faire des demandes. Donc c'est vrai que là, on a commencé, je dirais, à faire des demandes, surtout l'année dernière, hein, dans le courant de l'année dernière. Et là, maintenant, bon, les psychiatres de l'établissement ont bien cette formule à l'esprit, hein, et peuvent en parler donc aux familles, aux patients. Bon, les soignants aussi peuvent utiliser. Bon, mais c'est assez récent, vous avez raison. Hein, mais bon, je te dirais plutôt par un manque, moi, je pense, d'informations.
Moi, j'ai une supplique à vous adresser, à vous et à tous vos collègues du centre hospitalier Henri Laborie, c'est qu'il faut prescrire ce dont vous avez besoin, même si ça n'existe pas. Sinon, ça n'existera pas.
C'était pas forcément une logique absolue, quoi.
Ouais, donc c'est voilà.
Exemple, le SAMSA n'existe pas encore.
Ah, mais le SAMSA, on commence à le prescrire parce qu'on fait comme pour le SAVS. Voilà. On a compris. Les familles gouvernantes aussi, on en a.
Le foyer d'accueil médicalisé, il y en a pas. Il faut le prescrire parce que ça fait partie aussi de la palette des outils.
Mais c'est vrai que c'est difficile d'amener la personne à faire cette demande-là à la MDPH. En sachant que le service n'existe pas. Moi, il y a des gens qui m'ont
n'existe
dit...
N'existe pas encore.
Oui, mais ce n'est pas simple d'amener la personne dans cette logique-là aussi, parce que la demande, elle se fait par un professionnel, mais avec la personne. Il faut qu'elle soit d'accord pour jouer le jeu aussi par rapport
mais
à ça.
Vous savez, on vient juste d'ouvrir le SAVS, et pour la petite histoire, la première notification remonte à 2006. Mmh. Il y avait des précurseurs quand même, hein, des gens qui disaient, allez, ça va arriver, et ça arrivait. Mmh. Hein, puisqu'en 2009...
Oui, mais il n'y avait pas la masse critique qui rendait le bazar.
Le projet initial du SAVS, c'était pour 90 places. Hein. On nous a accordé 15 places pour cette année, et 15 places pour l'année prochaine. Donc il faut laisser l'effet se faire, et puis, mais ça vient. Non, mais je crois que ça dépend, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui attendent que le service fonctionne pour orienter, c'est vrai que ça, c'est important aussi, mais on a... En tout état de cause, actuellement, pas mal d'orientations de certains secteurs. Voilà.
Mais bon, il y a encore.
Je
ne
vais pas préciser du 3, mais on n'en a pas.
mais c'est vrai qu'il y a forcément encore un gros travail à faire. Hein, et donc là, la communauté médicale s'en rend compte. Hein, bon, les assistantes sociales sont de plus en plus avisées aussi pour nous amener à faire des prescriptions. Alors, il faut que les personnes, les patients et les familles soient aussi d'accord. Là, j'ai à l'esprit un patient pour qui j'avais fait une demande et qui a été contacté récemment pour le SAVS et a clairement dit qu'il ne voulait pas de ce truc-là. Donc, bon, voilà. Donc, on va le retravailler, on va reprendre, on va voir un peu ce que ça donne. Alors qu'il en aurait absolument besoin. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'après, il faut quand même s'adapter, ça, j'insiste là-dessus, hein, s'adapter avec la personne. Souvent, notre désir à nous ne correspond pas totalement à ce que la personne veut. Et donc, bon... Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la pugnacité. Bon, bah, et puis après, on finit par peut-être arriver à quelque chose. Mais en même temps, on ne pourra pas mettre tout le monde, en effet, en SAVS, tout le monde en SAMSA. Mais on attend beaucoup de ces services, bien sûr. Hein, donc il faut les prescrire, en effet. Donc je ne sais pas, madame, si on a répondu un peu à votre question.
Hein?
Oui,
Il y a aussi des services d'accompagnement social liés au logement qui peut aider dans la recherche d'un logement, même avec un RMI.
Et puis là aussi, les bailleurs sociaux, ils sont exactement dans la même position que les employeurs. C'est-à-dire que pourquoi aller au-devant des emmerdes si on leur annonce des emmerdes ? Je pense qu'il faut être réaliste. Et donc, à partir du moment où les services d'accompagnement existent, le risque est moindre. Ils sont exactement dans la même position que vos employeurs, qui sont rassurés par le fait de pouvoir vous appeler. Donc, moi, je l'ai expérimenté avec un des bailleurs sociaux de Poitiers. Effectivement, s'il sait que quand les poubelles commencent à s'accumuler dans le hall, il y a quelqu'un qui peut intervenir, etc., il est extrêmement rassuré.
Mais c'est ça le trouble psychique, c'est qu'il y a des périodes où on est bien, d'autres où on est moins bien. Mais alors c'est vrai qu'il y a peut-être une dame qui va vous répondre par rapport au logement aussi là.
Voilà, parce que mon fils a l'expérience, il est au RMI et il a eu un logement HLM par habitat 86 en 2-3 mois. Un par habitat, donc il a eu un logement, il était sur Jancet, maintenant il est à Nieul, il a un 45 mètres carrés, l'allocation logement rembourse même 9 euros de plus que le loyer, ce qui est complètement... bon, mais non, pour vous dire que, voilà, il y a possibilité, et en 2-3 mois, il a eu un logement par habitat 86. Étant RMiste, et on n'y croyait pas trop, alors bien sûr, il faut se porter garant, hein, les parents, ça c'est clair. Enfin, je dis bien sûr, on l'a fait, peut-être que c'est même pas obligatoire, mais bon, enfin, c'est pas une demande obligée, mais voilà.
Si on n'avait pas, c'était sur Bordeaux, si on n'avait pas un emploi... Oh là là, je suis fatiguée. Un CDI, on ne pouvait pas avoir de logement. C'était la croix et la bannière.
Non, mais on peut trouver à se loger sans CDI avec le RMI sur la Vienne.
Oui, sur Poitiers, sur la Vienne, oui.
Oui. Non, enfin, ça sera. Ouais.
Est-ce qu'il reste encore des questions importantes à poser ? Parce qu'on ne va pas abuser non plus forcément de la présence de nos invités. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou est-ce qu'on en reste là ? Donc on vous remercie beaucoup pour...
Simplement, Si vous avez bien entendu des questions, on a disposé des plaquettes à l'entrée. Ouais, vous pourrez appeler le service ou même nous contacter par mail. Hein, si vous n'osez pas nous appeler, on pourra répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc, et on vous donne rendez-vous pour la fin de la semaine au cinéma Le Dietrich pour la suite de la programmation. Deux documentaires excellents demain soir et jeudi soir en particulier sur la clinique de la Borde et sur la psychiatrie en général. Alors, oui. Les portes ouvertes des GEM de Poitiers et de Châtellerault, Phil d'Ariane.
J'aurais pu le dire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir ce qu'est un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Donc les portes ouvertes sur Poitiers tout vendredi et sur Châtellerault tout jeudi.